Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous, c'est parti pour Apolline Matin. Nous sommes le mercredi 6 mai et on est ensemble jusqu'à 9h. On va parler de la guerre des prix et la guerre des fast-food, guerre des prix qui fait rage désormais à nouveau dans le domaine des fast-food. McDonald's annonce réduire ses marges et relancer des tout petits prix. Les enseignes de poulet bon marché pullulent partout en France. On assiste à un big bang dans le secteur du fast-food. C'est ce que nous dira un spécialiste de la restauration à 7h40, mais je vous attends surtout vous. Vos témoignages, est-ce que vous êtes client de ces nouvelles enseignes? Est-ce que vous avez changé vos habitudes? Est-ce que vous préférez lutter contre les problèmes de pouvoir d'achat ou lutter contre la malbouffe? Tout ça, c'est assez politique en plus d'être vraiment des questions de consommation et de pouvoir d'achat. Et donc j'attends vos réactions, vos témoignages. Vous connaissez le chemin, le 3216 ou le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. Et puis on s'intéresse aussi ce matin à la vaccination des soignants. Est-ce qu'il faut la rendre obligatoire? C'est ce que réclame l'Académie de médecine. Louis Sarkozy, la voix de droite d'RMC y est favorable. On l'entendra à 7h50. Vous aussi, n'hésitez pas à nous appeler. Dans le face-à-face, je reçois le premier secrétaire du Parti Socialiste ce matin, Olivier Faure. Première interview depuis l'annonce, dimanche soir, de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Quelle stratégie pour le Parti Socialiste pour contrer les leaders insoumis? Puis on parlera de Total, parce que Total dit oui, mais s'il y a une surtaxe de mes profits, j'arrêterai de plafonner les prix à la pompe. Cette surtaxe sur les profits, c'est ce que veut Olivier Faure. Alors, est-ce qu'il préfère la surtaxe de Total ou le plafonnement des prix à la pompe? Je lui pose la question à 8h30. Il est 7h et il continue à pleuvoir, Géraldine.
Et oui, encore du gris, de la pluie. Il y en aura pour presque tout le monde aujourd'hui. Alors presque, parce que si vous êtes près de la Méditerranée, vous allez y échapper quand même. Vous aurez du soleil. Il y a des éclaircies qui vont revenir aussi près de l'Atlantique. Ce sera un peu plus sec également près des côtes de la Manche. Enfin, si vous n'êtes pas près des côtes, ce sera vraiment très pluvieux encore aujourd'hui, avec des températures qui baissent encore. On sera bien sous les normales de saison, notamment cet après-midi. Souvent 14 à 18 degrés. Il fera plutôt 19 à 21 près de la Méditerranée.
La météo sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
Excellent réveil à tous, merci d'avoir choisi RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Donald Trump continue de souffler le chaud et le froid. Il suspend l'escorte des bateaux militaires dans le détroit d'Ormuz 48 heures tout juste après son déclenchement. Le chantage de Total qui menace de ne plus plafonner les prix du carburant en cas de taxe sur les super profits. Et puis qui du PSG ou du Bayern rejoindra Arsenal en finale de la Ligue des Champions? Le match retour sera-t-il aussi époustouflant que l'aller? Réponse ce soir à 21h.
À chaque jour, donc, son retournement de situation.
À peine 48 heures après l'annonce de son déclenchement, l'opération d'escorte des bateaux dans le détroit d'Ormuz est suspendue. Romain Houck, vous êtes en direct avec nous ce matin. Romain, c'est Donald Trump qui en a fait l'annonce cette nuit.
Oui, comme à son habitude sur son réseau social Truth, le président américain se targue d'un énorme succès militaire et de grands progrès en vue d'un accord. C'est pourquoi, l'opération Projet Liberté, c'est son nom, est suspendue. Elle devait permettre à des centaines de bateaux bloqués de sortir du détroit d'Ormuz. Au final, un seul navire commercial dont on est sûr qu'il a franchi hier le détroit d'Ormuz sous escorte américaine après confirmation de son armateur. Un peu plus tôt dans la journée, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a lui assuré que la phase offensive de l'intervention américaine en Iran était terminée, ses objectifs remplis. Reste que Washington n'a pas mis la main sur les quelques 400 kilos d'uranium enrichi que posséderait toujours l'Iran, enfoui profondément sous terre. C'est pourtant l'un des but de guerre affiché des États-Unis depuis le début de la campagne militaire, s'assurer que l'Iran ne puisse pas se doter de l'arme nucléaire.
Précision en direct de Romain Houck pour RMC. En France, Total menace de ne plus plafonner les prix des carburants si une taxe sur les super profits était instaurée. Ce n'est pas prévu côté gouvernement, mais les socialistes ont déposé une proposition de loi en ce sens. Le patron de Total, Patrick Pouyanné, se défend dans le journal Ouest France, alors que le géant pétrolier a annoncé près de 5 milliards d'euros de bénéfices au premier trimestre, Lucas Laubert.
Oui, d'ailleurs, Patrick Pouyanné se dit même fier de ses profits importants. Total Energy ne va pas non plus s'excuser de performer et de réussir, ironise-t-il. Selon lui, il est fort probable que l'activité raffinage soit bénéficiaire en 2026 sur le plafonnement. Il insiste, il a été décidé de nous-mêmes, explique-t-il. Et pour lui, entre ce dispositif et une surtaxe de Total Energy, les Français préfèrent bénéficier directement de ce coup de pouce à la pompe. Pour Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis, cette déclaration qui met en balance les taxes et le plafonnement, c'est du chantage.
Elle est immorale, indécente, incorrecte. Je pourrais même dire qu'elle est anti-française d'un certain point de vue. C'est méprisant pour les gens. On va pas le remercier de plafonner. Ça a augmenté de près de 30 centimes, 29 centimes quasiment. Il n'est pas question qu'à l'heure actuelle, quiconque s'enrichisse plus que les années précédentes dû à la situation difficile dans laquelle nous sommes.
Une accusation d'antipatriotisme que Patrick Pouyanné réfute. Il précise que la France est le seul pays dans lequel Total Energy a mis en place un plafonnement des prix.
Plus de 7000 emplois en CDI doivent être créés en France par Amazon. Le géant du e-commerce annonce investir 15 milliards d'euros sur les 3 prochaines années. Des postes qui serviront à faire tourner 4 centres de distribution dans l'Eure-et-Loire, l'Oise, le Rhône et le Haut-Rhin. 18 mois de prison avec sursis requis contre un animateur périscolaire d'une école parisienne. Un homme de 47 ans jugé hier à huis clos pour agression sexuelle sur 9 petites filles âgées de 10 ans au moment des faits. La décision doit être rendue en juin.
Et puis bientôt la fin d'une longue attente pour les passagers de la croisière Onvius, coincée dans l'Atlantique.
Le navire est à l'arrêt au large du Cap-Vert. C'est là que vont être débarqués dans les prochaines heures 3 passagers malades du hantavirus, infection qui a déjà provoqué à bord la mort de 3 personnes. Antonin Audion, le bateau pourra ensuite repartir direction les îles Canaries.
Oui, le navire est actuellement au large du Cap-Vert à 3 jours de navigation des îles Canaries. L'Organisation mondiale de la santé estime que c'est l'endroit le plus proche disposant des capacités nécessaires pour prendre en charge une telle situation, rapporte le ministère de la Santé espagnol. Une fois sur place, l'équipage et les passagers seront examinés, pris en charge et transférés vers leurs pays respectifs. Et les autorités espagnoles se veulent rassurantes. Les soins et les transferts seront effectués dans des espaces et des moyens de transport spéciaux, aménagé pour cette situation en évitant tout contact avec la population locale. Enfin, le médecin du bateau est lui directement transporté en avion médicalisé aux Canaries, car il se trouve dans un état particulièrement grave.
Le vaccin contre la grippe va-t-il devenir obligatoire chez les soignants? L'Académie de médecine le recommande dans un rapport publié hier et défend l'efficacité de ce vaccin que seulement un soignant sur 5 a reçu. Pour ceux que vous avez rencontrés, Louise Salé, hors de question d'y être contraint.
Devant un hôpital parisien, ce rapport suscite beaucoup d'interrogations, voire de la colère.
C'est pas sur nous qu'il faut se concentrer, parce que nous, à l'hôpital, on galère, on souffre. Donc aidez-nous plutôt que tout le temps être en train de nous taper dessus pour nous obliger à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire.
Caroline est aide-soignante et a reçu cette année pour la première fois le vaccin contre la grippe.
Et finalement, j'ai eu la grippe de manière très intense. L'année prochaine, je le ferai pas. On sait pas vraiment ce que ça peut faire comme problème, en fait, de se faire vacciner comme ça tous les ans. Et je pense que quand les gens sont contaminés, quand il y a des épidémies de grippe, c'est pas à l'hôpital qui les attrape. C'est vraiment à l'extérieur. C'est pas notre problème.
D'autres soignants insistent sur leur liberté et affirment respecter les gestes barrières comme Guylaine, qui n'est pas vaccinée.
On a un masque, on a les gants et on protège le patient.
Une protection insuffisante, selon Christine Rousiou, professeure de virologie à l'Académie de médecine, qui rappelle que la grippe coûte près de 2 milliards d'euros par an à l'État.
C'est absolument incroyable de ne pas comprendre les enjeux économiques, éthiques et juridiques qu'il y a sous cette obligation vaccinale. Quand on est soignant, on ne peut pas renier les engagements de son métier.
La Haute Autorité de Santé devrait également rendre un avis prochainement sur ce sujet.
RMC 7h07 en Ligue des Champions, une demi-finale retour qui s'annonce déjà spectaculaire.
On a du mal à imaginer, c'est vrai, un spectacle différent de l'aller. Le PSG s'était imposé 5 buts à 4 contre le Bayern la semaine dernière. Ils arrivent donc à Munich ce soir avec un but d'avance. Les deux équipes s'attendent à la même magie, Valentin Jamin.
Avec 9 buts au match aller, les deux équipes avaient offert un record pour une demi-finale et le joueur parisien Warren Zaïre-Emery promet la même bataille.
Ça sera le même match, avec la même intensité, voire plus.
Car si souvent le résultat de la première manche conditionne la deuxième, cette fois pas de calcul, sous-entend son entraîneur Luis Enrique.
Aucun des équipes accepte que l'autre est meilleur. Et dans ce cas-là, je ne peux dire que va être différent. C'est un scénario passionnant.
Mon staff m'a dit qu'il faudra marquer minimum 3 buts au retour pour se qualifier, blaguait le technicien après le match aller fou. Les deux entraîneurs se retrouvent pour la 5e fois et le Bavarois Vincent Kompany s'attend au même défi.
De l'idée de jeu, je ne sais pas pourquoi il changerait. Ça s'est ouvert lors du dernier match, mais dans les autres matchs, il y a eu la même intensité. Malgré ça, les scores sont restés très proches, donc ça ne veut pas dire que le résultat sera le même.
Cette fois, Paris ne marquera peut-être pas 5 buts en 5 tirs cadrés, ajoute l'ancien milieu parisien Jérôme Roten.
L'efficacité était à son max. Même si c'est ouvert, il n'y aura pas toujours 9 buts. Quoi. On le souhaite, mais il ne faut pas s'attendre non plus à la même fête du foot.
Et chacun signerait pour gagner sur un petit score qui l'enverrait en finale.
Match à 21h à vivre sur RMC pour une place en finale donc de la Ligue des Champions contre Arsenal qui s'est qualifié hier en battant 1-0 de l'Atlético de Madrid. La dernière finale des Londoniens c'était il y a 20 ans. Pas de trophée en revanche pour Antoine Griezmann qui s'envolera la saison prochaine aux États-Unis.
C'était le journal de Clara Gabi et il est 7h08 sur RMC. On part au 32-16. Il y a Nicolas qui nous appelle de la Nièvre. Bonjour Nicolas.
Bonjour Apolline. Bonjour.
Enfin, je dis que vous êtes dans la Nièvre mais vous êtes peut-être déjà sur les routes parce que vous êtes chauffeur routier.
Je suis à côté de Rouen.
À côté de Rouen déjà. Nicolas, vous vouliez réagir à cette alternative. Vous le savez, Total plafonne les prix à la pompe, mais voilà, hier soir, son patron Patrick Pouyanné dit attendez, si vous nous menacez, il s'adresse évidemment aux politiques, si vous nous menacez de surtaxer nos profits, eh bien, on arrêtera de plafonner. En gros, c'est soit la taxe, soit les plafonds à la pompe. Entre les deux, vous choisissez quoi, vous, Nicolas ?
Moi, je choisis Total.
Vous choisissez
Moi,
Total ?
Je choisis Total. Mmh. Hier, j'ai fait mon plein. J'ai donc 2,19 € le litre. Mmh. À chaque litre, j'ai donné 1,31 € au gouvernement.
Ouais.
Donc, moi, je veux bien qu'on taxe Total parce que c'est un profiteur de guerre. Mais quand on prend 60% de taxes sur le produit du profiteur de guerre, on n'en devient pas un, nous aussi. Il n'y a personne qui va taxer le gouvernement.
Donc pour vous, c'est plus efficace, au-delà de ça, c'est plus efficace ?
Mais je suis désolé, c'est une entreprise privée, alors je veux bien que c'était une entreprise
ils disent,
publique
ils disent,
à
on
la
a
base.
Pas, c'est ce que dit Patrick Pouyanné, il dit on ne va pas s'excuser de réussir.
Bien sûr que non, là on parle de surtaxe parce qu'ils ont fait 5 milliards
de profits supplémentaires.
De surprofits. Mais si demain ils sont en déficit, qu'est-ce qu'on fait ? On renfloue les caisses ? Bien sûr que non, ils vont déposer le bilan.
On leur remboursera pas, quoi.
Là, ils ont pris un risque, ils ont fait un investissement parce qu'ils ont analysé une situation géopolitique, ils ont pris le bon risque, c'est payant. Si c'était planté, on serait tous là en train de les pointer du doigt en disant « Regardez cette mauvaise gestion, c'est inadmissible. Combien est payé M. Pouyanné pour zéro profit ?» Mais la vérité, c'est que c'est nos politiques qui devraient se poser des questions.
Je poserai la question justement à Olivier Faure tout à l'heure. Il est mon invité à 8h30, le patron du Parti Socialiste, parce que c'est le Parti Socialiste qui a déposé cette proposition de loi pour surtaxer Total. Alors, il posera la question exactement comme je vous l'ai posée. Est-ce que vous préférez la taxe ou effectivement le plafond à la pompe? Parce que le retour immédiat, c'est que potentiellement ces prix à la pompe remonteront. Merci beaucoup Nicolas d'être intervenu ce matin. Comme Nicolas, vous connaissez le chemin. C'est le 32-16. Il est 7h11. Un prénom, un drame. Philippines. Bonjour Charles Rodwell.
Bonjour.
Vous êtes député Renaissance des Yvelines. Philippines, c'est cette jeune fille qui avait été violée puis assassinée par un migrant marocain sous OQTF en 2024. Et vous proposez aujourd'hui d'allonger la durée de rétention administrative des étrangers sous OQTF. Votre proposition de loi, elle sera appliquée puisqu'elle a été adoptée hier à l'Assemblée nationale. Elle protégera mieux les Français. Voilà ce que vous nous dites dans un instant, 7h12.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Allonger la durée de rétention des étrangers dangereux, imposer des examens sur des individus suspectés de terrorisme. Charles Rodwell, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député Renaissance des Yvelines et c'est votre proposition de loi. Elle a été adoptée hier à l'Assemblée nationale. Vous portez ce texte après le viol et le meurtre de Philippine, cette jeune femme en 2024, étudiante, qui habitait d'ailleurs dans votre circonscription. Cette loi protégera mieux les Français. Est-ce que vraiment Philippines, pardon de le poser comme ça, mais serait encore en vie si votre loi avait existé avant ?
Il est impossible de prendre cet engagement et d'avoir, je dirais, l'arrogance de prendre cet engagement. Moi, tout ce que je cherche dans cette proposition de loi, c'est de prendre des mesures très concrètes pour lutter contre le terrorisme et pour allonger la durée de rétention de personnes extrêmement dangereuses qui n'ont rien à faire sur le territoire français puisqu'elles sont sous le coup d'une OQTF. Je parle là dans ce texte de personnes qui ont été condamnées pour des faits de terrorisme ou des faits de torture, de séquestration aggravée, d'attaque à main armée, de viol, d'actes de barbarie. On est vraiment sur le haut du spectre et ce sont pour ces gens-là où nous avons pris la décision hier à l'Assemblée nationale d'allonger la durée de rétention afin que ces gens-là restent enfermés avant d'être expulsé. Je suis très heureux parce que c'est une grande victoire. C'est une grande victoire transpartisane. C'est une grande victoire qui est portée par la droite et le centre, qui prouve bien qu'il faut que nous continuons à gouverner ensemble.
Quand vous dites
et
transpartisane,
ensemble.
Qui l'a soutenu, qui ne l'a pas soutenu, votre proposition?
Ah ben, elle a connu certes une opposition de l'ensemble de la gauche, et pardon de le dire pour rester poli, mais la gauche prend les Français un peu pour des endives. C'est-à-dire que vous avez hier le député de la France Insoumise qui explique que le droit de la France et l'honneur de la France, c'est de régulariser des terroristes aux OQTF plutôt que de les enfermer. Ça, c'est le propos de la France Insoumise. Vous avez le Parti Socialiste qui soutient coûte que coûte tous les amendements de la France Insoumise pour régulariser des personnes qui sont présentes illégalement sur le territoire français et pour réduire la durée de rétention. Et puis toutes les autres forces politiques, moi, je suis très heureux de voir des députés qui sont pas d'accord avec moi, qui ont accepté de soutenir ce texte, qui est un texte qui respecte l'état de droit, qui est un texte qui respecte notre constitution, qui est un texte qui protège nos libertés publiques, mais qui est un texte où nous assumons de prendre des mesures extrêmement fermes pour renforcer la sécurité.
Au bout du processus, que ferez-vous? Je rappelle les faits, Charles Rodwell, pour revenir toujours à ce cas et à ce drame. Philippine, elle a été violée et assassinée dans le sud de Paris, à l'heure du déjeuner, alors qu'elle allait manger son sandwich, elle-même étudiante à la fac de Dauphine. Le suspect, Taha Walida, âgé de 22 ans et de nationalité marocaine, avait déjà été condamné pour viol. Il avait d'ailleurs purgé sa peine. Il était inscrit au fichier des personnes qui devaient être expulsées. Mais voilà, au bout du processus, pour une raison aussi d'erreur administrative, de délai dépassé, il a été relâché.
Il a été relâché de son centre de rétention.
Vous allez passer de 180 à 210 jours la durée de rétention pour les OQTF condamnés pour terrorisme. Mais malgré tout, au bout de 210 jours, si le pays d'origine n'accepte pas le retour de l'individu, vous ferez quoi?
Non mais on ne va pas régler tous les problèmes.
Non mais est-ce qu'ils seront relâchés dans la nature?
Je comprends bien votre question et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé de renouveler la période de rétention. C'est-à-dire qu'une période de rétention simple va maintenant pouvoir aller jusqu'à 180, voire à 210 jours. Dans le cas de Philippines, comme dans d'autres cas, par exemple l'attaque de Mulhouse, tout le monde tombe sur le juge qui a relâché la personne. Sauf que le juge, il applique la loi. Moi, je veux bien qu'on tombe sur le juge, mais je préfère changer la loi afin que le juge puisse allonger la durée de rétention.
Il était légal de le laisser ressortir dans la nature.
Mais c'est surtout c'est qu'il ça était qui est illégal fou. De le retenir. Voilà. C'est ça qui est fou. Et donc, nous allongeons la durée de rétention, parce que, pardonnez-moi, pour ce type de profil, il vaut mieux avoir 180 ou 210 jours devant soi pour négocier le laissez-passer consulaire, plutôt que seulement 3 mois, à savoir 90 jours. Et si la personne est encore sur le territoire français et est extrêmement dangereuse, nous avons la possibilité de renouveler sa durée de rétention. Donc en fait, on peut la maintenir en rétention assez longtemps. Et moi, j'assume dans ce texte de ne porter l'allongement de la durée de rétention que pour les profils les plus dangereux. C'est l'objet de ce texte. Nous ciblons des terroristes, nous ciblons des personnes qui ont commis des actes de torture, de viol. Et moi, ce n'est pas ma conception de l'état de droit, contrairement à LFI et à l'ensemble de la gauche, que de relâcher ces personnes et de les régulariser. Moi, je veux qu'elles restent enfermées avant qu'elles ne soient expulsées. C'est l'objet de ce texte.
Merci d'être venu le défendre ce matin sur RMC. Charles Rodwell, député Renaissance des Yvelines. Il est 7h19 sur RMC et RMC Story. L'historien d'Apolline Matin est rentré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur Chevalier, on apprend ce matin que la parité en politique est loin d'être respectée. La France a toujours eu du mal à donner le pouvoir aux femmes.
Et oui, puisqu'il a fallu attendre 1936 pour voir une femme entrer au gouvernement, alors qu'à cette époque, elle n'avait même pas le droit de vote.
Vous allez nous le raconter dans un instant. Notez qu'à 8h30, mon invité, ce sera donc le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Je l'interrogerai d'ailleurs sur votre décision de loi, Charles Rodwell, celle qu'on appelle la loi Philippine désormais. Notez aussi dans la suite du programme qu'à 8h50, comme chaque jour pour notre plus grand bonheur, Nicolas Canteloup et ses imitations seront en direct sur RMC. Ne bougez pas, il est 7h20 et on se retrouve dans 60 secondes.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On va remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Arthur, d'après un rapport de l'ONG Oxfam qui est publié ce matin, la parité homme-femme en politique en France est loin d'être atteinte.
C'est le moins qu'on puisse dire, hein, puisque d'après ce rapport, les femmes occupent seulement 28% des postes clés du pouvoir. Ce calcul comprend tous les échelons de l'État, exécutif, parlementaire, municipal et toutes les grandes institutions. Et ça se vérifie dans le gouvernement de Sébastien Lecornu, où 47% des postes sont occupés par des femmes, en recul de 3% par rapport à l'année dernière.
Alors, il faut admettre qu'en France, on a peut-être eu longtemps du mal à donner le pouvoir aux femmes.
Oui, c'est une triste tradition française qui a commencé il y a bien longtemps, puisqu'en France, les femmes n'ont jamais eu le droit de régner. Vous pouviez être reine, mais vous étiez juste la femme du roi. Vous n'aviez pas le droit d'exercer le pouvoir, alors que c'était pourtant le cas dans d'autres pays, comme en Autriche, en Angleterre ou même en Russie, où il y avait des reines, des impératrices, qui étaient chefs d'État de plein exercice.
Quand est-ce que les femmes ont commencé à avoir des responsabilités politiques ?
Alors, il y a un moment décisif. En 1936, quand le Front Populaire, donc l'Union des Gauches, a remporté les élections législatives, le chef de gouvernement, à l'époque, c'est le socialiste Léon Blum, et pour la première fois, il fait entrer des femmes au gouvernement, ce qui était d'autant plus surprenant que les femmes n'avaient même pas le droit de vote à l'époque. Elles ne l'obtiendront que 8 ans plus tard.
Donc elles pouvaient être élues,
On avait des femmes ministres alors que les femmes ne pouvaient pas voter.
C'était qui ces femmes donc ?
Alors, elles n'étaient que sous-secrétaires d'État, donc pas vraiment ministres, c'était pas si mal pour l'époque. La première, Suzanne Lacor, est nommée à la protection de l'enfance. Dans un premier temps, elle a refusé la proposition. Pour la convaincre, Léon Blum aura une phrase qui va rester très célèbre. Cette phrase-là, voici. « Vous aurez surtout à être là, car votre présence seule signifie beaucoup. » La deuxième, c'est Cécile Brunschvig, elle était à l'Éducation nationale, et la plus connue des trois, c'est Irène Joliot-Curie à la recherche. C'était la petite fille de Marie Curie, elle était chimiste, et comme sa grand-mère, elle avait obtenu le prix Nobel en 1935.
Certaines d'entre elles ont même eu besoin de l'autorisation de leur mari.
Eh oui, c'était vraiment une situation un peu folle, puisqu'à l'époque, les femmes ne pouvaient pas travailler sans l'autorisation de leur mari, donc elles ont donc dû demander le droit d'entrer au gouvernement. La seule qui n'a pas eu besoin de demander l'autorisation, c'est Suzanne Lacor, eh bien parce qu'elle était célibataire.
Est-ce que ces nominations ont fait polémique à l'époque ?
En fait, pas vraiment. Ça n'a pas fait un pli, entre guillemets. En revanche, les mouvements féministes de l'époque ont beaucoup critiqué ce choix, car pour eux, c'était une façon d'éviter le vrai sujet, à savoir le droit de vote des femmes.
Il faudra attendre très longtemps pour qu'une femme devienne Premier ministre.
Oui, 1991, elle s'appelait Edith Cresson, elle était socialiste et c'est le président François Mitterrand qui avait insisté pour la nommer, tout un symbole pour la gauche bien sûr, et ça avait suscité beaucoup de critiques inélégantes et misogynes. Par exemple, un député du parti de l'UDF avait même osé déclarer, je cite, « Regardez le parcours de Madame de Pompadour, regardez le parcours d'Edith Cresson, il y a un parallèle certain ». C'était pas très classe.
Merci beaucoup Arthur. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. À tout moment, on peut réécouter vos chroniques en podcast. Et c'est évidemment tous les jours à 7h20. Il est 7h25. Arnaud de Manche a pris quelques jours. Et on file au 32-16. David, qui nous appelle des Côtes d'Armor. Bonjour David.
Oui, bonjour Apolline.
Comment ça va ? Vous êtes maçon, père de 4 enfants, et pourtant vous n'allez pas au fast-food ?
C'est ça.
Mais comment vous faites ?
Ah, alors déjà, je me permets, je suis très heureux de vous entendre et de vous avoir. Je vous regarde et je vous écoute, surtout tous les jours.
Ça fait plaisir. Soyez le bienvenu. Vous aviez jamais franchi le cap du téléphone ?
Pardon ?
Vous aviez jamais franchi le cap du téléphone ? Vous écoutiez ?
Avec vous, j'avais jamais pu oser. Je l'avais fait avec les grandes gueules.
Bon, alors soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu. Dites-nous alors, David, vous faites quoi ? Vous cuisinez ?
Exactement. Et en fait, malgré un emploi du temps chargé, papa solo avec 4 enfants et le travail, ben je m'arrange pour trouver les petits circuits courts, acheter des légumes moches et un peu de temps en cuisine et je fais des repas pour donc on est 5.
La guerre des fast-food, elle est relancée. D'abord du côté de McDo, ils remettent des petits prix et puis il y a tous ces nouveaux Master Poulet, Krusty. Donc c'est cette question aussi, est-ce que c'est de la malbouffe ? Est-ce que c'est aussi pour répondre au pouvoir d'achat ? On en parle tout au long de cette matinale, mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que ce matin, il y a Julien qui a appelé, qui disait qu'il faisait aussi lui des gâteaux, notamment pour les goûters de ses enfants, en disant moi je n'achète plus de biscuits, je n'achète plus de gâteaux, je fais moi-même. Vous vous organisez comment, David ? Vous faites ça quand ?
C'est pas compliqué. C'est de l'organisation.
C'est un pli à prendre. Voilà.
Parce que je vais vous donner, vous allez comprendre tout simplement. Si même leur menu à 5 euros, déjà, pour manger quelque chose qui n'est pas bon, on a encore 5. Si je compte, moi, si j'y vais avec mes 4 enfants, ça fait 5 fois 5, ça fait 25, on est d'accord?
Oui.
Bon, eh bien, moi, 25 euros, mais je fais 2 repas.
Ouais.
Je fais 2 repas pour 5
personnes.
Et alors,
vous leur faites quoi?
Ben, je fais un truc de dessert, c'est pas compliqué. Je vais un exemple tout simple, des carottes moches que personne ne veut acheter. Je prends des carottes moches, je fais des carottes râpées avec un filet de citron. Derrière, 2 morceaux de porc, des bas morceaux, ce qu'on appelle des bas morceaux, qui sont très bons. Ouais. Je les cuisine un petit peu, 2-3 patates, et derrière, une petite crème brûlée. Et ils ont mangé sainement, et voilà. Et ils ont plus faim.
Et bon appétit, il est 7h27. Et ça y est, tout le monde a l'image. Merci beaucoup, David, et bravo. Merci d'avoir aussi partagé avec nous. Vous n'hésitez pas, les uns et les autres, vous nous appelez au 3216 pour réagir à cette nouvelle guerre dans les fast-foods. On en parle juste après le journal. Il est 7h27. À tout de suite pour la météo et le journal.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Du pouvoir d'achat à la carte, McDonald's a inauguré hier un menu à 5 euros, réaction d'un géant pour faire face à ses plus petits concurrents qui cassent les prix pour vous séduire. La guerre au Moyen-Orient mise sur pause, possible accord en vue, dit Donald Trump, un espoir pour des compagnies aériennes françaises qui vont présenter leur plan de vol pour l'été au gouvernement face à la flambée des carburants. Et en foot, le PSG a un seul match de la finale de Ligue des Champions, demi-finale retour à Munich ce soir après la folie du match aller.
McDo se lance donc dans la bataille des prix.
Un menu à 5 euros. Nouvelle offre annoncée hier comme une riposte aux nouvelles enseignes. Les Master Poulet ou autres Tasty Krusty avec leurs plats à quelques euros qui font un carton. Parce que pour les clients, Victor Girard, quitte à faire une croix sur la qualité, on veut épargner son porte-monnaie.
À la sortie d'un fast-food, Tao, 21 ans, déballe fièrement sa commande.
Pour 7 euros, j'ai un tacos et des petites churros. C'est rapide, c'est pas cher.
Des menus à prix cassés, placardés en grand sur les vitrines et qui attirent de plus en plus de clients.
Pour moi, c'est tout neuf. Avant, je prenais des menus normaux comme tout le monde. Maintenant, on est obligé d'aller au moins cher et au plus attractif.
Reconnaît Christophe, un père de famille. Comme lui, près d'un Français sur deux juge ses offres indispensables pour aller au restaurant, selon un sondage IFOP commandé par McDonald's.
Vous avez les courses qui augmentent, le gaz, l'électricité augmente, les loyers augmentent, tout augmente. On n'arrive plus à finir les fins de mois.
Vous savez pourtant que ces menus-là sont pas forcément bons pour la santé?
On n'a pas le choix, monsieur. Quand tu as envie de faire plaisir à tes enfants, tu es obligé d'aller moins cher.
Impossible d'ailleurs de trouver des alternatives plus saines à ce prix-là, selon Giuliana.
Pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Il y a que les fast-food qui font ça.
Ces enseignes acceptent de réduire leurs marges pour miser sur le volume, explique Bernard Boutboul, spécialiste de la restauration. Stratégie risquée selon lui.
On va bien à un moment sortir de ce problème de pouvoir d'achat. Comment les restaurateurs vont faire pour remonter dans des prix qu'ils avaient avant? Je pense que ça sera impossible.
Ils devront donc s'habituer selon lui à générer moins de chiffres d'affaires qu'auparavant.
Et vous, appelez-nous, racontez-nous, est-ce que vous allez dans ces nouveaux fast-food? Est-ce que vous êtes toujours fidèle de McDo? Est-ce que McDo, c'est devenu presque trop cher? Appelez-nous pour nous le dire, j'attends vos témoignages au 3216.
Un cargo français touché par un projectile inconnu dans le détroit d'Ormuz hier soir, c'est ce qu'affirme la chaîne américaine CBS ce matin, alors que Donald Trump a suspendu l'opération d'escorte américaine. Il dit attendre de voir si un accord complet et définitif avec l'Iran est signé. Situation particulièrement scrutée par les compagnies aériennes françaises. Elles sont reçues cet après-midi par les ministres de l'économie et des transports. Elles qui sont inquiètes de l'envolée des prix du kérosène. Elles ont même pour certaines annulé des dizaines de vols en mai et en juin. Le gouvernement veut donc faire le point avant l'été, Victor Joannin.
Alors qu'il est, la France ne subit pas de pénurie de kérosène et dans le pire des cas, les stocks stratégiques pourraient être libérés, ce qui donne de la visibilité aux compagnies aériennes jusqu'en septembre. En attendant, la flambée des prix de carburant pèse sur leurs marges. Voilà pourquoi elles ont supprimé des vols non rentables en mai et en juin, car dans ce contexte, mieux vaut faire décoller un avion plein plutôt que deux à moitié vide. En revanche, pour la période estivale, le risque d'annulation est très faible, rassure Arnaud Aimé, spécialiste des transports au cabinet SIA.
C'est une période où les vols sont pleins,
où les billets sont vendus plus chers. Donc, c'est une période où les vols sont habituellement très rentables. Ils vont l'être certes moins, beaucoup moins, avec l'explosion des coûts du kérosène, mais ce sera quand même une rentabilité positive. Et donc, les compagnies aériennes ont tout intérêt à maintenir l'ensemble de leurs vols.
En revanche, pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait leur réservation, la facture va être salée. Les compagnies aériennes répercutent le surcoût du kérosène sur les prix des billets, avec des hausses allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'euros par vol.
Et côté voiture, Matignon planche sur de nouvelles aides carburant, plus seulement limitées au secteur de première ligne, dit le Premier ministre. Dans le même temps, Total Energy installe un ultimatum sur ses prix des carburants. Si jamais l'État mettait en place la taxe sur les super-profits voulus par les socialistes, alors le groupe ne plafonnerait plus les tarifs de ces stations, explique le patron de Total Energy. Un autre géant, Amazon, va se renforcer en France. Un plan d'investissement de 15 milliards d'euros sur 3 ans a été annoncé hier soir. Il prévoit la création de 7000 emplois en CDI et de 4 centres de distribution d'ici fin 2027 en Eure-et-Loire, dans l'Oise, dans le Rhône ou encore en Alsace. Un an et demi de prison avec sursis, c'est ce qui a été requis contre un animateur du périscolaire parisien hier accusé de harcèlement et d'agression sexuelle sur des petites filles de CM2 en 2024. Décision attendue le 16 juin prochain, c'est le premier procès de ce type. D'autres seront jugés. Maxime Clieruza du service police-justice de RMC, vous étiez présent à la sortie de l'audience face à des parents sans voix.
Oui, il faut dire que les parents d'élèves n'ont eu ni explication ni excuse de la part du prévenu qui a maintenu sa version des faits pendant les 5 heures d'audience, reconnaissant les surnoms donnés aux enfants, Mon cœur, La Délicieuse, mais réfutant toute agression sexuelle. L'ex-animateur scolaire, suspendu par la ville de Paris depuis la révélation des faits, parle de remarques maladroites et d'accolades lorsqu'il lui est reproché d'avoir touché la poitrine de l'une des 9 fillettes, toutes âgées de 10 ans au moment des faits. Les parents des enfants sont ressortis abasourdis de la salle d'audience, promettant de réagir plus tard à ce qu'ils avaient vécu. L'ex-animateur âgé de 47 ans s'est de son côté refusé à tout commentaire, préférant repartir comme il est arrivé, caché sous sa capuche et son masque sanitaire.
Maxime Clieruza pour RMC.
7h36 sur RMC, le choc de l'année en Ligue des Champions sur RMC évidemment.
Soirée spéciale des 18h, coup d'envoi 21h pour ce Bayern Munich Paris Saint-Germain demi-finale retour, avantage Paris, 5-4 au match aller, un seul but d'avance, donc autant dire presque rien pour le coach parisien Luis Enrique.
On a admiration pour le Bayern parce qu'ils jouent très bien au football. On va chercher à surmonter tout l'ambiance, que ce sera incroyable, et c'est une motivation extra pour nous, et surmonter une équipe qui joue de manière sensationnelle.
Et notez que les autorités ont interdit tout rassemblement sur et aux abords des Champs-Élysées jusqu'à 4h du matin. Le gagnant de ce soir, il affrontera Arsenal. Après un match nul à l'aller, les Anglais ont battu l'Atlético Madrid 1-0 hier soir.
Et puis le quintet, c'est à Vincennes.
Les pronostics de la Dream Team des courses RMC sont favoris. C'est le numéro 2, Rocky Mom, son outsider, le 15, Dauphin Joyeuse, le 2 et le 15.
C'était le journal de Victor Pourchet. Et à 7h37, on joue et on vous offre vos vacances. Vous le savez, toute la semaine, on vous fait gagner vos prochaines vacances à la mer ou à la montagne. Vous jouez pour remporter un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellembrun, le spécialiste des clubs de vacances pour les familles en France. Vous pourrez choisir parmi 45 destinations, là où Bellembrun s'occupera des enfants, des activités, des repas. C'est ce qu'on appelle le tout compris premium. Bref, pour remporter vos vacances Bellembrun, vous envoyez tout de suite vacances au 732-16. Vacances au 732-16 et le gagnant sera en direct avec moi avant 9h. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
7,50€ pour un poulet grillé entier, 2,50€ la cuisse, 1€ le pilon. Est-ce que vous aussi, vous avez cédé aux sirènes de ces enseignes de poulet bon marché? Elles se multiplient partout en France. La nouvelle guerre des fast-food est lancée. Bonjour Nicolas Nouchi, vous êtes spécialiste en conseil pour la restauration. Est-ce qu'on assiste à une évolution profonde sur fond de crise de pouvoir d'achat? Est-ce que c'est le retour de la malbouffe? Est-ce que les enseignes s'adaptent? Comment elles font? J'attends vos explications dans un instant et vos témoignages. Vous qui nous écoutez, appelez-nous au 3216. Est-ce que vous allez dans ces nouvelles enseignes et pourquoi? Est-ce que vous considérez d'ailleurs que McDo est toujours une forme de fast-food? Est-ce que c'est devenu de la malbouffe? Tout ça, on vous attend au 3216 et sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. La guerre des prix frappe les fast-foods. Oui, parce qu'on a d'un côté McDo qui annonce donc aujourd'hui un menu à 5 euros. Et puis de l'autre, on a ces nouvelles enseignes de poulet qui cartonnent. Bonjour Nicolas Nouchi. Vous êtes le fondateur de Strategit. C'est une société de conseil en restauration. Est-ce que c'est un big bang? On va le voir, ça devient même politique. Est-ce que c'est le retour de la malbouffe ou est-ce que c'est une question tout simplement de pouvoir d'achat?
Alors c'est un élément qui est assez simple, qui s'explique par une espèce d'équilibre. Il y a un nouvel invité qui s'est rajouté dans la balance du consommateur, c'est la satiété. On est dans une logique de rapport qualité-prix-satiété. Et la satiété change tout.
En avoir pour son argent, quoi.
En avoir pour son argent et sans forcément regarder la transparence que je regardais 2 ou 3 ans auparavant.
J'ai l'impression qu'on est passé de la lutte contre la malbouffe à un José Bové qui disait que c'était vraiment la fin du monde et qu'il fallait détruire les McDo à aujourd'hui la défense presque de cette malbouffe. Est-ce qu'on peut parler de malbouffe?
Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de malbouffe parce que ça serait réducteur pour les 55 000 restaurants rapides qui sont présents en France aujourd'hui. À l'époque de José Bové, il y en avait que 13 000. Hein. Donc, ça donne quand même un petit peu une idée. Le paysage s'est vachement développé. Et puis, au milieu de tout ça, ben, il y a une nouvelle génération et puis les réseaux sociaux qui véhiculent des images de gourmandise, de lâcher prise, presque d'indécence parfois, mais qui en revanche va correspondre complètement aujourd'hui aux appétences d'un consommateur qui a revu sa fréquentation.
Alors parlons quand même de ce qu'il y a dans ces assiettes et notamment la question de ces fameux poulets. Du côté des nouvelles chaînes de poulets, on vend des poulets grillés 7,50€, 4€ la moitié de poulet, 1€ le pilon. C'est quoi ces poulets? On sait qu'ils sont 100% pas français.
Oui.
À part ça, est-ce qu'on en sait plus?
Non, on n'en sait pas plus et je pense pas que le consommateur se pose aujourd'hui la question. Il va se la poser dans quelques années, mais aujourd'hui, dans cette logique de rapport qualité-prix-satiété, eh bien, en fait, il est plutôt dans une logique d'une belle assiette, bien remplie, copieuse et gourmande.
Copieuse et gourmande, et face à ça, on a McDo qui se retrouve presque menacé et qui lance une contre-offensive, un menu à 5 euros.
C'est pas une contre-offensive parce que faire des menus et des deals économiques, ça fait des années que ça se fait. Donc au bout, effectivement, il y a McDo qui fait cette proposition-là pour aller reconquérir une jeune génération qui cherche cet équilibre avec la satiété.
Et je vous attends d'ailleurs au 32-16. Dites-nous si vous allez chez Master Poulet, Krusty, Tasty. Dites-nous justement pourquoi vous y allez. Pour l'instant, ceux qui appellent, c'est plutôt pour dénoncer. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a aussi cette logique de, on veut dire, qu'on cuisine soi-même, qu'on fait attention. Et je comprends bien, mais comment est-ce qu'on fait, effectivement, quand il y a aussi le pouvoir d'achat? Nadja est avec nous. Bonjour Nadja. Vous nous appelez de Nîmes, gestionnaire conseil. Vous y allez ou pas, vous?
Non, je suis vraiment pas fan de tous ces fast-foods qui ouvrent partout. Pour revenir au menu à 5 euros
de McDo,
ok, pour dépanner, et encore. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autre option. On peut aussi manger sainement, sans se ruiner, avec des produits simples.
Vous faites comment,
en
vous
utilisant, hein. Alors moi, j'ai 2 enfants de 9 et 7 ans. Et c'est vrai que mes enfants, je ne les ai pas habitués à ça. On a déjà été, mais ils n'aiment pas. Simplement. Et c'est vrai que moi, en rentrant du travail, je cuisine des produits sains, des produits de saison, rapides. J'essaye de leur faire manger des légumes. Une fois, deux fois, ça ne marche pas. Mais au bout d'un moment, ils apprécient. Mais ce n'est pas la solution pour moi. J'étais en train d'écouter une dame qui disait « on n'a pas le choix, pouvoir d'achat, etc. » Non, on peut manger sainement à moindre coût.
Vous arrivez à vous en sortir à moindre coût. Restez avec nous, Nadja. C'est vrai que quand on regarde le développement, alors c'est pas qu'en région parisienne, hein. Master Poulet, par exemple, revendique 50 points de vente. Un de ses concurrents, Tasty Krusty, dit qu'ils ont 60 restaurants partout. Est-ce que le poulet est en train de remplacer le burger, le kebab?
Alors le poulet déjà est la volaille préférée, enfin et la viande et la protéine préférée des Français, c'est la moins chère aujourd'hui. Donc dans ce contexte, ça remplace pas, ça complète dans un paysage où le consommateur cherche à alterner et a revu sa fréquentation. Donc forcément cette offre de 5 euros, c'est un produit d'appel, ça existe dans la restauration comme dans le meuble. Je peux me trouver une table feng shui dans n'importe quelle enseigne de meubles à moitié prix à un moment donné. C'est un pouvoir d'attractivité, ça n'empêche pas.
Est-ce
pour
que
autant.
Ça va durer? C'est-à-dire qu'il y a un côté aussi, et on le voit bien, vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux, à chaque ouverture, on crée presque l'émeute. Il y a quelque chose d'un phénomène. Est-ce que le phénomène, dans ces cas-là, ça veut dire aussi qu'à un moment, ça peut se tarir?
Il y a un côté éphémère dans cet engouement, mais on n'empêche pas pour autant qu'il y a des choix du consommateur, à un moment donné, de lâcher prise, d'aller chercher, finalement, cette dose de fast-food dont il a besoin, à un moment donné.
Une dose de fast-food, vous en parlez presque comme d'une drogue?
Je parle comme d'une drogue ou plutôt comme d'un besoin dans un contexte anxiogène où on a besoin justement
à un moment donné,
de se lâcher. Tout le monde.
Ouais.
Donc après maintenant, si le marketing et notre système capitaliste, ben en fait pousse les consommateurs à aller à outrance dans ces lieux-là, ben en fait c'est aussi un choix d'aller alterner et de chercher d'autres alternatives. Et il y en a plein.
Romain, sur la route des vacances, vous, c'est systématiquement fast-food. Bonjour Romain.
Bonjour, oui, excusez-moi. Oui, c'est nous qu'on perd le moins de temps possible sur la route des vacances avec les enfants quand on rentre.
Ouais, mais et sinon, dans ces cas-là, vous allez quoi chez McDo?
Voilà, ou un petit Buffalo en vitesse, voilà, ouais. Mais très vite. Mais sinon, le McDo, c'est jamais.
Jamais. Mais alors, pardon, je vous écoute, hein, Romain. J'écoute Nagia. Mais quand même, il y a des McDo désormais dans chaque petite ville de France, voire même plusieurs. Est-ce que c'est un peu comme quand on disait, ah ben non, ça, moi, je le lis pas, ou sauf quand je suis chez le coiffeur. C'est-à-dire, il y a un côté un peu, non, mais moi, ça, c'est pas pour moi. Je veux bien, mais moi-même, je cuisine beaucoup et je fais le max. Mais il y a quand même des petits moments où je craque.
Je fais beaucoup de sport aussi. Et honnêtement, bah déjà vu le prix du McDo, quand on y va à 4, on se retrouve vite à un peu plus de 35 €, il me semble.
Donc la question, c'est aussi le prix.
Bah, vu ce qu'on mange,
Bah, voilà.
le prix, je préfère prendre le temps de cuisiner un petit peu. Et bah voilà, il y a clairement pas photo. Et aussi pour le bien-être, c'est vrai que je fais beaucoup de sport et j'avais du mal à perdre du poids. Bon, je mangeais beaucoup aussi, mais pas forcément des mauvaises choses. Un peu trop de glucides, un peu trop tout ça.
Ouais. Et vous avez changé vos habitudes ?
Oui, on se sent beaucoup mieux. Je faisais beaucoup de sport tous les jours, je ne perdais rien. Rien que faire un rééquilibrage alimentaire, j'ai perdu 5 à 6 kilos en quelques semaines.
Ah, félicitations. On sent la satisfaction.
Voilà, et ben les repas, c'est un peu de protéines, des légumes. Si on fait du sport, un peu de glucides. Si on n'en fait pas, on limite. Et ça s'arrête à ça, quoi. Voilà.
Merci
et
beaucoup.
Et on se sent très bien, voilà.
Merci Romain et Nagia. Aujourd'hui, il n'y a quand même pas de crise dans les fast-foods. On peut dire que c'est vraiment l'inverse. Et même McDo, vous disiez, c'est pas vraiment non plus une défense, parce que McDo se porte très bien.
Alors, c'est pas qu'il se porte bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grosse concurrence, il y a une grosse pression, il y a beaucoup de solutions de restauration. Il faut pouvoir proposer des alternatives et des solutions agréables. Ce qui a juste été dit, qui était intéressant, c'est cet côté un peu de décontenance qu'on comprend pas trop en tant que consommateur. C'est ces jeunes qui aujourd'hui, en fait, se disent qu'ils font très attention, mais en même temps vont fréquemment dans l'univers du fast-food. C'est ces jeunes qui se disent, je fais du sport et de la musculation, mais en même temps, je vais manger un croustillant à des moments parce que je pense que la dose de protéines fait le job. C'est toute cette
contradiction,
contradiction qui fait partie de nos habitudes du quotidien.
Merci beaucoup d'avoir expliqué tout ça avec nous ce matin. Nicolas Nouchi, vous êtes donc le fondateur de Stratégite. C'est une société de conseil en restauration. Et merci à vous tous de témoigner. N'hésitez pas, vous continuez et vous connaissez le chemin. C'est le 32-16. Il est 7h50 et Louis Sarkozy vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Parce que c'est mercredi, la voix de droite avec cette question. Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire pour les soignants?
Apolline, je suis pour la liberté de chacun, la liberté de tous, mais la liberté des patients passe par la vaccination des soignants.
Donc vous êtes pour cette obligation-là.
Oui,
vous nous le dites dans un instant, il est 7h50.
RMC, Apolline Matin.
7h52, dans un instant la voix de droite, mais d'abord le bonus. Mathieu, ce matin c'est l'événement, le retour des Rolling Stones.
Et vous l'entendez, c'est le son des Stones, l'annonce en fanfare hier du 25e album studio des rockers anglais, des papis du rock. Les leaders du groupe ont 82 ans. L'album s'appelle Foreign Tongues, les langues étrangères, et ça sort le 10 juillet. L'annonce, c'est aussi la fin d'un suspense. Le groupe avait récemment sorti un premier single que vous entendez, Rough and Twisted, uniquement sur vinyle en édition limitée sous le nom de The Cockroaches, les cafards, pseudo qu'ils utilisaient dans les années 70 et 80 pour des concerts secrets. Quelques extraits ont donc été dévoilés hier, des chansons blues, des guitares rock, la voix de tête, les ouhou de Mick Jagger, vous allez les entendre. Un disque stonien promet le groupe et on parle de plusieurs stars invitées qui pourraient figurer sur cet album. Paul McCartney peut-être, Robert Smith, on évoque Leonardo DiCaprio. En revanche, aucune tournée n'a été annoncée. Enfin, ça c'est pour le moment.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
C'est mercredi. Le mercredi, c'est la droite. Et c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour.
L'Académie de médecine vient de recommander l'obligation vaccinale contre la grippe pour les soignants. C'est un débat qui revient souvent. Et aujourd'hui, en France, en réalité, seuls 20% des soignants sont véritablement pleinement vaccinés. Pour vous, Louis Sarkozy, le libéral, il faut quand même une vaccination obligatoire ?
Apolline Hippocrate l'avait déjà dit, voilà 2500 ans, primum non nocere.
D'abord, bien sûr, je m'en souviens
d'abord
bien.
Ne pas nuire. Tout le reste, la médecine, l'éthique, le serment, découle en vérité de l'Académie a raison. Aujourd'hui, dans nos hôpitaux, un soignant sur cinq seulement se vaccine contre la grippe. Et chaque hiver, des patients âgés, fragiles, en fin de vie, contractent à l'hôpital la grippe que leur transmet, sans le savoir, le soignant qui les traite.
Alors, vous attendez quand même pourtant ailleurs, parce que vous êtes libéral, vous êtes toujours contre les obligations. Par principe, vous ne devriez pas refuser toute obligation, donc y compris vaccinale.
Mais si demain on me disait qu'il fallait vacciner obligatoirement le boulanger, l'avocat, le journaliste, le caissier... Là, je hurlerais au scandale. Mon corps est mon affaire. Mes choix de santé sont mes affaires. C'est la base du contrat libéral. Mais le soignant, ce n'est pas le boulanger. Le soignant passe ses journées au chevet de personnes âgées, malades, dont le système immunitaire ne tient plus qu'à un fil. Pour elles, la grippe peut être une condamnation. Là, on ne parle plus de liberté individuelle.
Les soignants n'auraient pas les mêmes droits donc, que tout le monde.
Mais bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Le soignant sait très bien dans quoi il s'engage. Une vie difficile au service des autres, comme le soldat, comme le policier. Ça s'appelle servir et ça implique forcément une perte de liberté.
Il n'y a pas de contradiction.
En rien. C'est Montesquieu. C'est John Stuart Mill. C'est le principe libéral le plus ancien et le mieux établi. Ma liberté s'arrête là où elle met en danger la vie d'autrui. Un soignant jeune et en pleine forme peut parfaitement porter le virus de la grippe sans symptômes. Ce n'est pas un fantasme. Les foyers hospitaliers de grippe sont documentés. Chaque hiver, les études convergent. Quand la couverture vaccinale des soignants monte, la mortalité des patients baisse.
On parle bien de vaccins de la grippe. Certains mettent en avant des effets secondaires.
Oh, Apolline, si vous refusez le risque infinitissimal et chiffré d'un effet secondaire de vaccin, alors par cohérence, ne montez plus jamais en voiture. Vous avez infiniment plus de chances de mourir sur la route en allant chez votre médecin que de faire une réaction grave à un vaccin antigrippal. Ne prenez plus l'avion, il s'écrase parfois, ne traversez plus la rue, on s'y fait renverser tous les jours et surtout, n'allez plus au restaurant, on peut s'y étouffer avec une cacahuète. Statistiquement, la cacahuète tue plus de Français chaque année que les effets secondaires graves du vaccin contre la grippe.
Vous trouvez le discours anti-vaccin intellectuellement faible ?
Intellectuellement faible, non. Je le trouve intellectuellement inexistant. Le risque zéro n'existe jamais en médecine comme ailleurs. Et le vaccin génère bien moins de risques que la maladie qu'il combat. Au contraire de la cacahuète, d'ailleurs.
Au contraire de la cacahuète. Il faut rappeler quand même que la vie avant l'invention des vaccins était franchement pas si belle.
Mais c'était l'horreur. Demandez aux pédiatres ce qu'était la rougeole avant le vaccin. Demandez aux anciens, dans leurs poumons de fer, ce qu'était la polio. Demandez aux familles ce qu'était la diphtérie. Demandez à n'importe quel chef de service de gériatrie ce qu'est encore aujourd'hui la grippe pour un patient de 90 ans. Le vaccin a sauvé plus de vies au XXe siècle que toutes les politiques publiques réunies. Ça, c'est un truc de libéral.
Imposé par la loi, ça vous choque pas donc?
Le libéralisme laisse la place, Apolline, à la restriction consentante de la liberté. Je dis bien la restriction consentante. C'est celle que le soignant doit assumer. Quand on entre dans la profession médicale, on prête un serment. On endosse un contrat moral. Être au service du malade et ne pas lui nuire. Refuser de se vacciner contre la grippe quand on travaille en gériatrie, en oncologie, en réanimation, c'est rompre en partie ce contrat. Personne n'oblige un infirmier à devenir infirmier, mais s'il choisit ce métier, il doit en accepter les obligations.
Merci beaucoup Louis Sarkozy, la voix de droite sur RMC. Il est 7h57, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et à la une du journal de 8h, un cargo français, on l'apprend à l'instant, a été touché dans le détroit d'Ormuz. On y revient dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h, très belle journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texard. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un cargo français touché dans le détroit d'Ormuz, selon les médias américains. Quelques heures seulement avant l'annonce de Donald Trump de suspendre son opération d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz et dans l'espoir d'un accord de paix avec l'Iran. Des fruits et des légumes emballés, le plastique résiste et continue d'envahir nos rayons en dépit de lois successives sur le sujet. Et qui du PSG ou du Bayern rejoindra Arsenal en finale de Ligue des Champions ? Réponse ce soir sur RMC, demi-finale retour de la compétition.
La fin de la guerre est-elle possible au Moyen-Orient ?
Il y a un espoir mince avec ce revirement de Donald Trump qui, pour tenter d'aboutir à un accord avec l'Iran, annonce la suspension de son opération d'escorte de navires en place depuis 48 heures dans le détroit d'Ormuz, où la tension est restée très forte jusqu'à hier soir. En croire les médias américains, Romain Houg, un navire français a été touché.
Oui, c'est la chaîne de télévision CBS News qui donne cette information, citant deux responsables américains. Il s'agirait du San Antonio, navire battant pavillon maltais, précisément un porte-conteneur appartenant à la compagnie française CMA-CGM, propriétaire de RMC, ce dont n'a pas encore confirmation, dit-il ce matin le ministre des Transports, Philippe Tabarro. Le navire aurait été touché par un missile de croisière iranien dans le golfe Persique hier, sans que l'on ne sache vraiment à quelle heure. Toujours selon ces deux responsables américains, plusieurs membres d'équipage philippin auraient été blessés dans cette attaque. Alors, où se trouve désormais ce navire? C'est difficile à dire. La dernière localisation connue, c'est au large de Dubaï, port de départ de ce navire, il y a un peu moins de 24 heures. C'est en tout cas ce que l'on peut voir sur un site de trafic maritime en direct, mais c'est compliqué d'en savoir plus, tout simplement en raison des brouillages GPS liés à la guerre en cours dans la zone.
Une ligne rouge, celle du patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, qui menace de mettre fin au plafonnement des prix à la pompe si le gouvernement décidait de taxer les super profits comme le réclament les socialistes. Ce n'est pas le cas. À cette heure, l'exécutif semble privilégier de nouvelles aides, adapter les dispositifs en cours. C'est le Premier ministre qui le dit à l'Assemblée nationale, Thomas Becker.
Oui, devant les députés, Sébastien Lecornu, comme Emmanuel Macron il y a quelques jours, prépare les esprits. La guerre va durer et la crise des carburants aussi.
Nous allons vivre avec cela. Cela va durer, c'est systémique. Et la question énergétique fait partie des guerres hybrides qui seront menées à un continent comme l'Europe et singulièrement à la France.
Il promet de nouvelles aides en début de semaine prochaine. On veut aller au-delà des secteurs déjà concernés, précise son entourage. Après avoir aidé les professionnels les plus dépendants vis-à-vis des carburants, comme les pêcheurs ou les transporteurs, on veut aider d'autres de l'économie, les secteurs en deuxième ligne, explique un conseiller de Sébastien Lecornu. Jeudi soir, le chef du gouvernement réunira la plupart de ses ministres pour déterminer les professions concernées. Selon les informations de RMC, des aides pour les taxis, les aides à domicile et les aides soignantes sont en ce moment à l'étude. L'objectif est de donner de la visibilité, explique Matignon, qui prépare déjà les aides du mois de juin.
À retenir également 15 milliards d'euros d'investissement sur 3 ans dès cette année en France, promesse d'Amazon. À la clé, 7000 créations d'emplois en CDI réparties sur 4 nouveaux sites. Il est partout dans nos supermarchés, le plastique dans le viseur de 2 associations. Elles pointent dans un rapport son omniprésence en rayon. 6 ans pourtant après la loi anti-gaspillage qui imposait pour 2025 une réduction de 20% des plastiques à usage unique. On en est encore très loin, nous dit ce matin sur RMC Camille Wolf de l'association No Plastic in My Sea.
Maintenant, on vous vend des fruits et légumes découpés en tranches, préparés dans des barquettes en plastique. Moi, j'ai l'impression que les Français, ils ont pas besoin qu'on leur coupe leurs tomates pour réussir à les mettre dans leur salade. Moi, je serais intéressé de savoir si les ventes des autres fruits et légumes ont baissé depuis qu'on propose cette offre-là. J'en suis pas convaincu. À mon avis, on se donne des bonnes excuses pour des pratiques qui sont indéfendables. Et c'est pour ça que nous, on appelle à la grande distribution à revenir sur ces pratiques-là, parce qu'elles envoient des signaux complètement contradictoires avec les objectifs qu'on a de diminution de ce plastique à outrance.
On va vous parler dans quelques instants de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG. Une rencontre que certains supporters auront la chance de vivre au stade avec parfois une place achetée à prix d'or. Que ce soit pour les événements sportifs ou les concerts. On parle ici de billets vendus en dehors des sites officiels par des revendeurs. Ils prennent d'assaut les billetteries, achètent plusieurs places dans le seul et unique but de les revendre beaucoup plus cher que le prix initial. On appelle ça des scalpers. C'est le choix de la rédaction ce matin, Marion Gauthier.
Oui, et c'est le cas de Nicolas, un entrepreneur. Entrepreneur et scalper artisanal, dit-il. Il a commencé par le sport il y a 8 ans, acheter, revendre des places pour des matchs et avec le bénéfice, acheter une meilleure place pour lui. Aujourd'hui, il a une quarantaine de billets à revendre pour les concerts de Céline Dion. Il en avait 10 pour Bayern PSG.
La place valait 50 euros et se revendait prix marché aux alentours de 200, 250. Ça peut payer des belles vacances, mais on n'en vit pas.
Il avoue tout de même gagner 10 000 euros par an en revendant ses tickets d'entrée plus chers. Ses clients payent le service en quelque sorte.
En fait, au fur et à mesure des années, les gens demandent parce qu'ils sont au courant qu'on peut potentiellement avoir des billets. Voilà. On est presque un peu comme de la bourse où on aurait deux téléphones, les billets sortent. Et en fait, effectivement, on dit au client, tu prends pas. S'il prend pas, tac, client suivant. Mais moi aussi, enfin, même pour moi, maintenant, c'est devenu compliqué.
Car la pratique se professionnalise. Certains scalpeurs programment des logiciels, des bots pour multiplier les connexions, entrer dans les files d'attente et aller plus vite sur les ventes en ligne. Les billetteries tentent de suivre et d'améliorer la détection de ces robots. Sollicité par RMC, la plateforme Ticketmaster estime subir jusqu'à 200 millions d'attaques par semaine en France.
Le choix de la rédaction, signé Marion Gauthier ce matin sur RMC. Vous l'aurez donc compris, si vous voulez suivre ce match Bayern-PSG sans vous ruiner, rendez-vous sur RMC, 21h. Ce soir, c'est gratuit, une rencontre au sommet et une chose que les supporters du PSG redoutent ce soir. Le galop infernal d'Offenbach, la musique qui suit chaque but du Bayern à l'Allianz Arena de Munich. C'est là que le PSG a soulevé sa première coupe aux grandes oreilles l'an dernier. C'est là que les hommes de Luis Enrique vont tenter cette année d'aller chercher leur place en finale de Ligue des Champions. Ce sera face à Arsenal, tombeur hier de l'Atlético Madrid, à Munich et en direct ce matin pour RMC. Arthur Perrault, une semaine après leur victoire 5-4 au Parc des Princes. Les Parisiens ne partent pas dans l'idée de conserver leur petit but d'avance, mais celle d'enfoncer le clou, Arthur.
Oui, Paris ne vient pas à Munich pour faire du tourisme. Thibaut, le club de la capitale, rêve de se qualifier pour une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. En conférence de presse hier, l'entraîneur parisien Luis Enrique a été clair. Le PSG va chercher à gagner ce match, mais surtout le PSG va chercher à rester fidèle à ses valeurs avec un collectif puissant et un jeu porté vers l'attaque. Mais pour y parvenir, le champion de France va devoir composer sans le défenseur Achraf Hakimi. Pour le suppléer, l'international français Warren Zaïre-Emery devrait être titulaire. Lui qui a l'habitude d'être au milieu de terrain. Dans le cœur du jeu parisien, c'est un Fabian Ruiz diminué qui pourrait lui débuter. Après 3 mois d'absence avec une blessure au genou, l'Espagnol va devoir porter le PSG devant les 75 000 spectateurs de l'Allianz Arena. Des Parisiens qui restent optimistes avant d'aborder ce nouveau choc contre le Bayern Munich, avec deux mots d'ordre dans la direction du club: sérénité et détermination.
Arthur Perrault en direct de Munich. On vous retrouvera ce soir sur RMC pour ce choc. Dès 18h, Rotten sans flamme, le match 21h suivi de l'afterfoot et de la libre antenne. Avant ça, un autre rendez-vous sur RMC 15h, la toute première interview de Paul Sexas depuis l'annonce de sa participation au Tour de France. Il est l'invité du Super Moscato Show.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 8h08, on parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, on parle du taux d'usure. Le taux d'usure est aujourd'hui trop bas. Est-ce qu'il va, comme en 2022, bloquer le marché immobilier?
Alors, il faut rappeler que le taux d'usure, c'est le taux maximum légal qu'une banque peut appliquer à un crédit. Il est fixé chaque trimestre par la Banque de France. Alors là, aujourd'hui, c'est 4,48% pour les prêts sur 10 à 20 ans, 5,19% pour les prêts sur 20 ans et plus, et ce, depuis le 1er avril. Alors, il faut rappeler qu'au départ, ce taux d'usure, ça part d'une bonne intention. Ça part de la volonté de protéger les consommateurs contre des taux d'intérêt beaucoup trop élevés que pourraient pratiquer les banques. Le problème, c'est que, entre-temps, depuis le 1er avril, à cause des tensions géopolitique, les taux d'intérêt proposés par les banques aux acheteurs immobiliers ont remonté dans le sillage des taux d'intérêt sur les marchés financiers. Le résultat, c'est qu'on a un nombre croissant de dossiers d'emprunteurs qui affichent un taux effectif global. Vous savez, le taux effectif global, c'est quand vous avez mis l'assurance, etc. Et ben, qui est plus élevé que le taux d'usure, même pour des bons dossiers. Donc le résultat, eh bien, c'est que ces bons emprunteurs essuient un refus de crédit.
Qui sont les profils qui sont donc potentiellement concernés par cette question?
Contrairement à une idée reçue, les emprunteurs les plus fragiles ou les plus jeunes ne sont pas forcément les plus concernés. Donc on pourrait penser que tous ceux qui ont des budgets serrés sont les plus frappés. Bah non, c'est pas forcément le cas. Il y a des profils qu'on pourrait qualifier de haut de gamme qui sont un peu percutés. Par exemple, vous avez 45-50 ans, vous avez des bons revenus, mais vous voulez emprunter sur une durée assez courte, et bah c'est pas possible. Ou bien vous êtes un emprunteur âgé, vous avez plus de 60 ans. Là, on va vous demander par exemple un taux d'assurance plus élevé que si vous êtes jeune, et pareil, vous n'allez pas passer la rampe du taux d'usure. Donc pour arriver à obtenir un prêt dans ce contexte, il y a plusieurs options possibles. Par exemple, allonger la durée du crédit quand c'est possible pour avoir un plafond du taux d'usure plus élevé. Faire jouer la concurrence sur l'assurance au lieu de prendre systématiquement celle que vous propose la banque. Ou encore négocier les frais annexes pour limiter leur impact sur ce fameux taux d'intérêt global.
Emmanuel, comme tous les jours sur RMC, les chiffres du jour.
Alors, le gazole, on est sur 2,22 € le litre. Mais alors, vous savez qu'avec la promo totale qui va recommencer commencer, essayez de tenir jusqu'au week-end prochain parce que là, ça va baisser. Sur le samplon 95, on est dans une hausse inexorable, hein, dans le sillage du brut, puisqu'on a pris 3 centimes en une semaine. Et puis, le pétrole, $108 le baril. On voit bien que depuis 10 jours, finalement, on s'installe dans une fourchette entre 100 et 110 le baril. Les semaines précédentes, on était plutôt entre 90 et 100 le baril. Donc, on s'installe sur une fourchette qui est 10 euros plus élevée que les semaines précédentes. Ça n'augure rien de bon, évidemment, pour les prix des carburants. Et puis, pour le gaz, on est stable à 46,50 euros le mégawattheure. C'est quand même 50% au-dessus des niveaux d'avant-guerre. Mais rappelez-vous qu'en 2023, on était 300% au-dessus des niveaux d'avant-guerre.
C'était l'économie avec Emmanuel Lechypre, il est 8 à 11. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
On se retrouve dans un instant avec le meilleur d'Arnaud Demange. Notez qu'à 8h30, ce sera Olivier Faure, mon invité, le patron du Parti Socialiste. Entre les taxes sur Total ou le plafond des prix à la pompe, il choisit quoi? Parce que vous le savez, il défend l'idée d'une taxe sur les super profits de Total. Mais voilà, Total répond, dans ces cas-là, si vous nous taxez, on remontera les prix à la pompe. Je lui pose évidemment la question à Olivier Faure et ce sera sa première réaction depuis l'annonce de candidature de Jean-Luc Mélenchon. Juste après, il y aura Face à Canteloup, comme tous les jours, à 8h50. Et en attendant, il y a vous aussi au 32-16, appelez-nous pour témoigner. J'ai presque l'impression que depuis qu'on parle des fast-food, tout le monde se planque en disant non, mais moi j'y vais pas, non, moi je cuisine, moi je fais de la bonne bouffe pour mes enfants. Super, mais j'imagine qu'il y en a quand même certains d'entre vous qui y vont aussi dans ces fast-food. Dites-le nous, n'ayez pas honte. Franchement, il n'y a pas de morale là-dedans. Nous, on écoute tout le monde et vous êtes tous les bienvenus au 32-16. Il est 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15 sur RMC et RMC Story. Arnaud Demange a pris quelques jours, mais on en a gardé le meilleur. Il sera de retour lundi. En attendant, je voudrais que vous écoutiez les quelques astuces d'Arnaud pour devenir riche.
T'as mis de l'argent. Bonjour.
Bonjour.
Vous tous.
Ah oui, parce que si on est
plus surtout, oui. Sachez que si vous avez peut-être tous de la thune qui vous attend sur le site internet Cyclade de la Caisse des dépôts qui permet de savoir si vous avez des sous qui vous attendent sur des comptes bancaires que vous avez oubliés.
Ce serait génial.
On met son nom dans le site.
Non, mais c'est vrai. Alors
11 euros.
Moi, j'ai eu 30 balles. En 2025, 164 millions d'euros ont été restitués. Donc, on tape son nom sur le site. C'est comme le loto.
Et vous avez, monsieur Béliard, 11 euros sur le livret A qu'a ouvert votre grand-mère à votre naissance. Félicitations.
5 euros sur un livret il y a 20 ans. Peut-être que vous avez un trésor de 5,50 euros qui dort sur un compte. Emmanuel Lechypre, il va se régaler, Manu. Il en a tellement des comptes, il a dû en oublier.
Oh, je l'avais oublié, ce compte à la Banque Populaire. Oh, un autre chez HSBC. Oh, un autre au Crédit Agricole. Oh, une assurance vie à la Banque Postale.
En 2026, Manu, il va récupérer les 164 millions à lui tout seul.
Ouais.
Enfin, avec Edwige Chevrillon,
sa
copine de BFM Business, il va lui dire
« Momoun, je vais pouvoir agrandir la piscine et commander un millefeuille chez Cédric Grolet. »
Oh, choubidou, c'est formidable. Je suis nu dans le jacuzzi. Prends les frites de piscine et les canards en plastique.
J'arrive.
Oh, beau requin de la finance. Croque-moi toute crue, je suis un sushi.
Edwige, on t'embrasse.
On t'embrasse, Edwige.
Donald Trump se prépare à une attaque nucléaire sur le sol américain. On lui a posé la question, un avion prévu.
Ouais, en fait, alors, je vais le faire. Je sens qu'on a mal dormi. Le débat de mercredi soir a laissé péter la question. Je vais le faire moi.
Je vais péter la question.
En fait.
Si on veut payer le voyage, je vais y aller.
Donald Trump se prépare-t-il à une attaque nucléaire sur le sol américain? Parce qu'il y a un avion qui est prévu dans ce cas.
Oui, mais c'était trop compliqué aussi comme relance. Compliqué. Pardon, Arnaud Demange.
C'est un avion qui est surnommé l'avion de l'apocalypse et il a été vu en train de faire des manœuvres. L'avion de l'apocalypse. Alors, l'avion de l'apocalypse, c'est pas un vol Ryanair qui fait Beauvais-Gerba où vous êtes coincé entre Gilles Vernez et Amanda Turner. Hein,
l'avion de l'apocalypse. C'est pas mal aussi, ça dit.
C'est pas loin. Non, c'est bien aussi, mais là, c'est un avion blindé qui est surnommé aussi l'avion du jugement dernier. Ça fait envie.
Oh là là.
Il doit servir de poste de commandement pour le président américain en cas d'attaque nucléaire. Alors, admettons qu'il y ait une attaque nucléaire et que la planète soit détruite. où est-ce qu'il va atterrir de toute façon. Ça le maintient en l'air le temps d'un plein, quoi. En tout cas, c'est pas rassurant. Et vous savez qu'en France, nous, on a le Ouigo de la fin du monde. Qui sert aussi de base à Emmanuel Macron en temps de crise. Je vais demander à l'armée de l'air de... Oh non, je capte même pas le Wi-Fi. Alors que c'est la guerre mondiale. Bon, je vais aller au wagon-restaurant pour le briefing. Oh non, putain, c'est vrai, c'est un Ouigo. À seulement 350 euros le billet, il n'y a pas de wagon-bar. Ah oh, bah c'est bête alors.
C'est vraiment trop bête. Il est 8h18, il sera de retour lundi, Arnaud Demanche. Et pour rire, il y a aussi Nicolas Cantelou, ça ce sera 8h50. Pour l'heure, il est 8h18. Je voudrais accueillir Laetitia, qui nous appelle de Haute-Loire. Bonjour, bonjour. Laetitia.
Bonjour.
Laetitia, vous y allez par plaisir au fast-food? Je voudrais repréciser le débat. On a quand même l'impression que la guerre des fast-food est relancée avec McDo qui relance des menus à petit prix, avec l'apparition de ces nouvelles enseignes Krusty Poulet, Master Poulet, un peu partout. C'est vraiment aussi la question à la fois du pouvoir d'achat, des fast-food, éventuellement de la malbouffe. Vous en êtes où, vous, Laetitia?
Moi, en fait, ce qui me fait réagir, c'est ce que les personnes qui ont appelé ce matin, c'était pour dire qu'elles cuisinaient et qu'elles n'allaient pas en fast-food.
Ouais.
Moi, je pense que les deux sont pas opposés. Moi, je cuisine beaucoup, j'aime beaucoup aller au restaurant, mais j'aime aussi de temps en temps manger un bon McDo.
Ce que nous disait, vous avez entendu tout à l'heure ce que nous disait le conseiller en dans tout ce qui est culinaire, restauration, il disait au fond, c'est aussi dans une logique de notre époque, on a besoin de temps en temps de craquer, quoi.
C'est ça, de craquer, de se faire plaisir, comme aller dans une crêperie ou dans une pizzeria. Enfin, c'est la fréquence qui serait pas bonne, mais c'est pas le fait d'y aller. Enfin, pour moi, c'est pas le fait d'y aller une fois de temps en temps pour plaisir qui fait qu'on a de la malbouffe. Ça n'empêche pas de manger, comme le monsieur de ce matin, des carottes râpées.
Le reste des carottes moches, enfin. Vous précisez, vous avez entendu, c'était David.
Les carottes moches avec un filet de pizza.
Les carottes moches, pas chères. Quand elles sont râpées, honnêtement, on ne sait plus si elles sont moches ou pas moches, d'ailleurs.
C'est ça. Non, mais c'était surtout ça. C'est de dire que moi, pour moi, les deux ne sont pas du tout incompatibles, en fait.
Et dans ces cas-là, vous allez où, Laetitia?
Moi, je suis plutôt McDo, Burger King, mais
voilà. Bon, bah écoutez, non, mais c'est bien, et c'est bien de le dire aussi, parce que je pense qu'effectivement, il faut pouvoir tout entendre, mais on le sent bien. Et d'ailleurs, c'est passionnant parce que c'est à la fois une question, j'allais dire culinaire, alimentaire, une question de consommation, de pouvoir d'achat. C'est même en train de devenir une question politique. Tiens, je poserai la question tout à l'heure à Olivier Faure, parce que la gauche d'avant, c'était plutôt la gauche, une gauche José Bové qui luttait contre les McDo. Aujourd'hui, ce serait plutôt la défense, pour une partie en tout cas, la défense de ces nouvelles enseignes. Il est 8h20. Le face-à-face, c'est dans un instant. Mais d'abord, c'est l'heure de féliciter Jacqueline. Bonjour Jacqueline.
Et bonjour.
Et bonjour Jacqueline. Bravo. C'est vous qui avez remporté le séjour Bel Embrun. Félicitations.
Oh là là, je suis ravie. Ouais, très heureuse.
Et nous, Jacqueline, vous vivez où? Vous faites quoi?
Je vis à Saint-Genélaire. C'est une petite ville à côté de Saint-Étienne.
D'accord.
Dans 42.
D'accord. Et vous savez déjà où est-ce que vous avez envie de partir?
Eh ben, ça serait plutôt au bord de la mer. Mes enfants aiment beaucoup le bord de la mer et comme on part avec eux.
Ah, c'est sympa. Donc voilà. Vous savez déjà,
en
tout cas.
Deux grands enfants, moi, qui sont célibataires et on part toujours avec mon mari et mes enfants.
Ça va être un bon moment, moment ensemble. Eh ben, Jacqueline, on vous souhaite de très belles vacances. On vous souhaite de très belles vacances parce que ça y est, on peut le dire. Vous les avez gagnées. Comme Jacqueline d'ailleurs, vous le savez, toute la semaine, on vous offre vos vacances, un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bel Embrun. Il y en aura un nouveau séjour à gagner demain, donc restez toujours bien à l'écoute. Il est 8h21.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bel Embrun. Bel Embrun Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Restez bien à l'écoute, dans un instant, le face-à-face. Mon invité, c'est Olivier Faure, il est 8h22. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
Un cargo de l'armateur français CMA-CGM, également propriétaire de RMC-BFM, touché par un projectile d'origine inconnue dans le détroit d'Ormuz. Ce sont les informations relayées par la chaîne américaine CBS ce matin, quelques heures après l'annonce de Donald Trump. La mission d'escorte américaine est suspendue. Le temps, dit-il, de voir si un accord de paix est signé avec l'Iran. Dans ce contexte, Sébastien Lecornu promet de nouvelles aides carburant. Elles pourraient être dévoilées la semaine prochaine et elles s'élargiraient à des secteurs qui ne sont pas pour l'heure secteur considéré comme en première ligne, a précisé le Premier ministre. 15 milliards d'euros sur 3 ans, c'est le montant du plan d'investissement annoncé par Amazon en France hier soir. À la clé, 7000 emplois en CDI et 4 nouveaux centres de distribution d'ici fin 2027. Un an et demi de prison avec sursis requis hier contre un animateur du périscolaire parisien, accusé d'harcèlement et d'agression sexuelle sur des petites filles de CM2 en 2024. Décision attendue le 16 juin prochain. Le choc de l'année, c'est du foot en Ligue des Champions. C'est sur RMC, soirée spéciale dès 18h. Coup d'envoi à 21h pour ce Bayern Munich Paris Saint-Germain. Demi-finale retour de Ligue des Champions. Avantage Paris, 5 buts à 4 à l'aller. Le gagnant de ce match affrontera Arsenal en finale de cette Coupe d'Europe. Et puis la météo, le temps est gris et pluvieux sur la plupart des régions aujourd'hui. Du soleil quand même près de la Méditerranée. Ce sera plus sec vers l'Atlantique en journée avec des températures qui baissent encore cet après-midi de 12 à Reims jusqu'à 21 à Montpellier, 15 à Paris, 17 à Bordeaux et 19 à Marseille.
La météo sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
C'était le rappel des titres de Victor Pourchet. Dans un instant, le face-à-face. Mon invité, c'est Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste. Première interview depuis l'annonce de candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et puis tiens, je lui poserai évidemment la question à Olivier Faure. Taxe ou plafond? Il veut taxer Total et Total répond: eh bien dans ce cas, je ferai remonter les prix. Entre la taxe et le plafond, il choisit quoi, Olivier Faure? Réponse dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Faure.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci d'être ici pour répondre à mes questions. Vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste. J'ai plein de questions à vous poser et notamment sur les candidatures.
C'est
la
répondre.
Première fois que vous répondez à une interview depuis l'annonce de candidature de Jean-Luc Mélenchon. Mais je voudrais commencer par cette histoire de Total. Vous voulez taxer Total et Total dit bah, si vous nous taxez, on va remonter les prix à la pompe. Fini le plafond. Entre la taxe et le plafond, vous choisissez quoi?
D'abord, la première chose, c'est que il ne s'agit pas d'une taxe totale. Il s'agit en fait d'une taxe qui vise toutes celles et ceux qui font des super profits liés à un conflit. Et donc, en réalité, quand Total et d'autres font des super profits, ils ne les font pas parce qu'ils ont augmenté leur production, ils ne le font pas parce qu'ils ont créé des produits nouveaux, ils ne font pas des profits parce qu'ils ont un génie particulier, ils le font simplement parce que la crise géopolitique est là et qu'ils en profitent. Et donc, dans un moment comme celui-là, où les Français sont amenés à voir leur pouvoir d'achat rogné progressivement par la hausse des prix du carburant et de l'énergie de manière générale, il est logique, il est normal que celles et ceux qui font des profits qui sont des profits indus, eh bien, soient amenés aussi à contribuer.
Mais vous avez vu ce que vous répond Patrick Pouyanet. Hier, il dit d'abord sur ce que vous dites sur le fait qu'ils ont gagné de l'argent. Il dit Total Energy ne va pas non plus s'excuser de performer et de réussir dans son domaine. Il faut au contraire, dit-il, en être fier. Et par ailleurs, il dit si vous taxez, bah, il n'y a pas de problème. Mécaniquement, je stoppe mon plafonnement des prix à la pompe.
À personne des excuses. Je dis simplement que quand on a un pays qui est menacé par une perte de pouvoir d'achat pour le plus grand nombre, eh bien, celles et ceux qui ont fait le plus de profits doivent contribuer. Ça s'appelle la solidarité, ça s'appelle aussi défendre l'intérêt général.
Il y a déjà
général.
Une surtaxe sur une contribution qui était censée être exceptionnelle et qui a été renouvelée.
Pour ceux qui font de la paye. Ils la payent, et je ne dis pas que Total ne paye pas d'impôts, je ne dis pas que Total est un groupe qui mérite d'être mis au banc de la société française. Je dis simplement que le chantage...
Vous avez hésité à quoi? À dire que c'était un profiteur de crise? C'était ça le mot que vous vouliez pas vraiment sortir?
Oh bah ça, je peux le dire. C'est un profiteur de crise, comme d'autres.
Un profiteur de guerre?
Bien sûr. Bien sûr, à l'insu de son plein gré. Je ne dis pas que c'est lui qui est à l'origine de cette guerre illégale. C'est en réalité Donald Trump. Mais évidemment, il y a aujourd'hui des gens qui en profitent et d'autres qui, au contraire, le subissent. Les Françaises et les Français, dans leur immense majorité, le subissent. Total en tire des bénéfices.
Mais justement, ces Français, moi j'en avais plusieurs ce matin qui ont appelé sur RMC, qui sont notamment des gros rouleurs. J'avais un routier qui était dans la région de Rouen et qui disait « Mais attendez, moi, je fais mon plein chez Total et j'ai pas du tout envie qui remonte les prix et il dit le problème c'est que cette taxe, le temps qu'elle soit éventuellement rétribuée aux Français, il dit au moins là c'est efficace. Entre la taxe et le plafonnement des prix, je choisis le plafonnement des prix. Voilà ce que vous disent aussi une partie des Français.
Mais je les comprends. Mais moi, je ne donne pas un choix entre l'un et l'autre. Ce que je dis simplement au gouvernement, c'est qu'il ne peut pas céder au chantage. On ne peut pas avoir un chef d'entreprise qui désormais dit en fait au gouvernement ce qu'il doit faire et ce qu'il ne peut pas faire. Ça n'est pas admissible. Dans une démocratie, le débat doit exister. Et il est logique qu'il y ait aujourd'hui eh bien, des mesures qui soient prises et qui permettent de redistribuer cet argent en direction des plus modestes. Ce que je vois, c'est que Total dit qu'il plafonne les prix, ce qui est vrai. Mais ce que je vois aussi, c'est que en dépit de ce plafonnement, il vient de faire 6 milliards de dollars de bénéfices supplémentaires. Il a augmenté son profit de 51%. Et on considère que ce serait tout à fait normal. Moi, je dis que ça n'est pas normal. Et ça n'est pas lié. Quel est le génie particulier de Patrick Pouyanné qui a conduit à ce qu'il y ait un surprofit? Il n'y a pas de génie particulier. Il y a simplement une crise dont il profite. Et donc, il n'est pas anormal que l'État dise à un moment à une entreprise française de dire, écoutez, nous avons aujourd'hui une vraie difficulté pour les Français.
Vous maintenez donc votre proposition de loi.
Oui, je la maintiens, bien sûr.
Et de l'autre côté, vous demandez à Total de maintenir son plafonnement des taxes. Plafonnement du prix à la pompe.
Bien sûr, le patriotisme, c'est ça. C'est d'accepter l'idée que quand on a, je ne crois pas que Total soit en difficulté. On a là, en fait, à quoi sert cet argent? Soit il sert à servir les Français, soit il sert les actionnaires, celles et ceux qui voient leurs dividendes augmenter chaque année. Eh bien, il n'est pas tout à fait normal qu'il y ait des gens qui, aujourd'hui, se servent de la crise pour pouvoir augmenter leurs bénéfices personnels et que pendant ce temps-là, tous les autres payent.
Voilà. 194 millions d'euros de rentrées dans les caisses en plus de ce qui était prévu, qui seront intégralement utilisés. Ça, c'est pour l'État. Intégralement utilisés.
Ce que j'avais demandé, je suis très heureux
donc
de voir
que vous êtes satisfait de cette transparence, de la manière dont c'est utilisé.
Bien sûr, je suis tout à fait satisfait du fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un euro supplémentaire qui rentre du fait de la crise géopolitique dans les caisses de l'État. Et il était normal d'assurer une transparence totale et de redistribuer immédiatement cet argent qui est collecté en supplément de ce que l'État aurait dû percevoir dans une situation normale.
Donc on ne fait pas plus. On ne bloque pas les prix, on ne supprime pas les taxes.
Blocage des
prix, CLFI, suppression des taxes ou réduction des taxes, ça c'est plutôt le RN.
Mais on ne distribue pas plus d'argent qu'on en a. Pour une raison très simple, c'est que si vous dites par exemple, comme le propose le RN, qu'on fait baisser la TVA, très bien, ça coûte 12 milliards. Ces 12 milliards, vous les cherchez où après? Vous avez besoin de les trouver quelque part. Le RN n'a jamais donné la solution. Ça veut dire que ce sont les Français
eux-mêmes. Cette phrase, je voudrais l'encadrer, peut-être même l'enregistrer, en faire un gimmick. On ne distribue pas plus d'argent qu'on en a.
Bien sûr, c'est la raison pour laquelle... Et pour tout.
Ah bon. Mais il va peut-être falloir faire des petits changements quand même donc,
mais
dans
il
n'y
a pas un seul moment, Pauline de Malherbe, où vous m'avez entendu dire qu'on devait distribuer un argent qu'on n'avait pas. Quand on ne l'a pas, on le cherche quelque part. La raison pour laquelle je vous propose ce matin, à nouveau, de dire que sur ceux qui réalisent des super profits liés à une crise géopolitique, eh bien cet argent-là doit venir dans les caisses de l'État pour qu'il puisse être redistribué aux Françaises et aux Français.
Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon est donc candidat.
Oh, quelle surprise.
Oui, ça ne vous a pas surpris tellement? Mais ça n'a pas l'air même de vous ébranler,
mouvoir. Écoutez, il est candidat permanent depuis des décennies, donc je ne vois pas très bien ce qui a changé.
C'est un non-sujet, quoi.
Ben oui.
Enfin, il y a quand même un petit moment où la question va se poser de savoir qui est la gauche aujourd'hui. Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous ensemble?
C'est les Français qui le décideront. Mais c'est son droit. Il est candidat. C'est la quatrième fois qu'il est candidat à une élection présidentielle. Moi, ce que je crois, c'est que Jean-Luc Mélenchon, à la fois, a des qualités évidentes. C'est un tribun. Il a un charisme que personne ne lui enlève. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il est un candidat de premier tour qui est parfaitement légitime. Mais il est le plus mauvais candidat pour la gauche au second tour. Il est celui qui permet à toutes les droites et l'extrême droite de se coaliser. Et donc, quand on observe simplement les enquêtes d'opinion, qui valent ce qu'elles valent à cette époque de l'année. Mais ce que l'on voit, c'est que il est celui qui vraisemblablement serait le plus sèchement battu par l'extrême droite, ce qui conduirait à ce qu'on ait une extrême droite qui soit à son niveau le plus élevé et qui lui donnerait quasiment une carte blanche pour la suite. Et moi, je ne veux pas donner de carte blanche à l'extrême droite et je veux même la battre à l'élection présidentielle prochaine.
Olivier Faure, ça veut dire que quand je vous interroge sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon, vous me dites le problème, c'est que de toute façon, il ne peut pas gagner. Donc, il n'y a pas de problème sur le fond. S'il n'était pas candidat, vous auriez pu, s'il ne s'était pas annoncé dès le début, vous auriez pu peut-être faire alliance avec leurs idées, avec une partie des militants, des élus. Est-ce que vous auriez pu vous mettre ensemble s'il n'y avait pas Jean-Luc Mélenchon, mais s'il y avait ses idées?
Non, enfin, ça dépend lesquelles. En fait, il y a des idées que je partage et des idées que je ne partage pas.
Alors, lesquelles vous partagez et lesquelles vous partagez pas?
Bah, ça va être long, mais...
Quand il dit, l'une des premières promesses, c'est la retraite à 60 ans, le SMIC augmenté, le blocage des prix. C'est les trois mais formules qui ont été utilisées.
Le SMIC augmenté, je le partage. Je pense qu'aujourd'hui, notamment tout ce que nous vivons et tous ces gens qui nous disent tout ce qu'on nous a évoqué dans vos journaux, dans les heures qui ont précédé, sur, la question de la malbouffe, sur la question, toutes ces questions-là, sont liés au pouvoir d'achat et sont liés au fait qu'aujourd'hui les Français vivent mal et ne vivent même pas et vivent même mal alors qu'ils sont salariés, qu'ils travaillent, et quand le travail ne paye pas, c'est un problème. Et donc effectivement, oui, il faut aujourd'hui augmenter le salaire minimum. Sur la question de la retraite, moi je suis pour le retour à 62 ans, mais je ne suis pas favorable au fait qu'on aille à 60 ans, pour des raisons qui sont liées au fait que d'abord la durée d'existence, de vie s'est allongée, et qu'il est difficile, là aussi, de promettre des lunes qu'on ne saura pas financer. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai demandé avec succès la suspension de la réforme Borne, et j'espère bien que lorsque nous serons arrivés au pouvoir en 2027, eh bien nous pourrons non seulement suspendre, mais même revenir complètement sur cette réforme, l'abroger et faire en sorte que nous puissions à établir une réforme qui soit une réforme de justice, qui permette de distinguer entre les carrières pénibles et celles qui ne le sont pas.
Vous avez dit hier soir, Olivier Faure, alors que vous étiez en meeting avec une partie de la gauche non-mélenchoniste, je dirais, on ne peut pas faire l'alliance au prix de l'abandon de nos valeurs républicaines, de notre rapport à l'Europe, notre capacité à gouverner sérieusement ce pays. Mais puisque vous évoquez la question de la bouffe, de la malbouffe, ou de la fast-food bouffe, ou de tout ça, il y a effectivement une bataille qui est en train de devenir très politique, qui est cette bataille notamment autour de Master Poulet. Et je repensais à ce qu'était la gauche il y a quelques années, pas si lointaine, la gauche José Bové, qui allait détruire des McDo. Aujourd'hui, vous avez Éric Coquerel, par exemple, qui lui va défendre Master Poulet, qui sont ces nouvelles enseignes avec des poulets très peu chers. Vous êtes quelle gauche? Vous êtes plutôt dans la logique d'un José Bové qui était en train de détruire les McDo, ou aujourd'hui vous défendriez Master Poulet, par exemple?
C'est très curieux que Éric Coquerel soit déjà désormais défenseur d'un capitalisme effréné, avec des gens qui utilisent justement le fait que il y a un problème de pouvoir d'achat pour déstocker de la malbouffe. Parce que la réalité, c'est que ces grandes enseignes, elles ne sont pas là pour offrir une nourriture de qualité, mais pour offrir en fait l'illusion de la quantité. Et donc, ce que nous
l'illusion de la satiété, c'est ce que disent certains spécialistes. Absolument. Ce sont des poulets 100% pas français, ça c'est sûr.
Oui, absolument. Ce sont des poulets qui sont enfin tout sauf bio, qui sont tout sauf fermiers. Et on a notamment un public qui est un public captif, qui sont les plus jeunes. Et je le vois bien, y compris mes propres enfants, qui sont attirés par ces enseignes. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons accompagner ces mouvements-là, ou est-ce qu'au contraire nous devons essayer de les réfréner et de dire qu'il y a un sujet?
Vous défendez
derrière.
Donc le combat de Karim Bouamrane, qui est le maire de Saint-Ouen, qui dit que c'est une manière en quelque sorte de donner de la malbouffe justement à ceux qui n'ont pas assez de pouvoir d'achat.
Il y a à Saint-Ouen Thierry Marx qui a monté une enseigne qui n'est pas justement une enseigne de malbouffe, qui doit s'appeler le Boulon du Coq, et qui justement offre à des populations modestes la possibilité de manger et de manger bien. Et donc, ce que nous devrions défendre tous ensemble, c'est effectivement la possibilité pour toutes les familles, y compris les plus modestes, de manger correctement et de ne pas être victime de la malbouffe, parce qu'on sait aussi derrière ce que ça a comme conséquence en termes de santé alimentaire, en termes d'obésité, en termes de tout ce que nous combattons. Et donc, il faut offrir le meilleur à tout le monde.
Donc, c'est un vrai combat de valeurs, en fait, de rapport au commerce, au pouvoir d'achat. Vous disiez une population captive, en quelque sorte. Pour vous, il y a tout ça dans cette bataille-là?
Tout se mêle, effectivement, des questions de santé, des questions des questions de pouvoir d'achat, évidemment, et de rapports qu'on a aussi à la restauration, à la convivialité, etc. Donc il y a toute une série de sujets qui sont posés par cette
Olivier Faure, votre réponse, ou disons votre contre-candidature, ce sera qui, ce sera quoi? Parce que quand Jean-Luc Mélenchon dit « nous, c'est carré », on a un candidat, on a un programme. C'est vrai, parce que de l'autre côté, je ne sais plus compter le nombre de candidatures potentielles à gauche.
C'est vrai. Ça, c'est pour l'instant, effectivement, une situation que je déplore. Et je suis celui qui se bat depuis des semaines pour faire en sorte que, justement, on fasse rentrer un carré dans le rond et qu'on ait enfin la possibilité...
Ça marche rarement, de faire rentrer le carré dans le rond.
Ça dépend de la taille du rond.
Oui, mais pas vraiment que ce soit un tout petit carré.
Bah, un carré qui rentre dans le rond. En tout cas, ce que je cherche,
vous
c'est...
Vous pensez que vous y arriverez?
J'espère, je ne suis pas le seul à mettre.
Vous allez dire à François Hollande, écoute, prie-toi à la primaire. Vous allez dire à Raphaël Glucksmann, prie-toi à la primaire. Vous allez dire à François Ruffin, à Jérôme Guedj. En plus, vous, c'est l'enfer parce que vous pouvez même plus dire que vous êtes candidat parce que vous dites tellement il y a déjà trop que vous êtes complètement bloqué, vous.
Mais je ne suis pas bloqué. Je dis simplement que il y a évidemment.
Non, mais vous n'allez pas me dire que vous êtes candidat.
Sujet. Non, je vais pas vous le dire.
Ouais. Mais parce que vous ne pouvez plus le dire. Il y en a déjà trop.
Mais je crois que ça n'empêche personne. Je vois même un candidat supplémentaire par jour.
Oui, c'est ça.
Dans le week-end, on a entendu, en fait, Bernard Cazeneuve se rajouter à la liste. Et puis, Elisabeth Borne qui se tâte côté droit. Bon, bref, en fait, quand on aura...
Vous trouvez ça risible. Enfin, je... Oui. Ouais. Là, les dernières déclarations de Bernard Cazeneuve qui laisse entendre qu'il est prêt, Elisabeth Borne qui se dit au fond pourquoi pas moi.
Je me prépare, je suis déjà prêt, je suis déjà volontaire, je suis candidat à une primaire. Bon, on n'en peut plus, ça suffit.
Donc vous leur dites quoi?
Il faut qu'à un moment, effectivement, on trouve tout simplement un moyen commun accepté par toutes et tous qui permette de sélectionner celui ou celle qui nous représentera.
Quand? Comment?
Moi, je me bats pour un candidat commun ou une candidate commune à l'élection présidentielle qui incarne cette gauche non mélenchoniste et qui permette d'aller chercher le second tour et de l'emporter au second dans le cadre d'un front républicain. Donc les choses sont assez claires et assez simples de mon point de vue. Maintenant, effectivement, il faut que les égos, les ambitions naturelles, légitimes, etc. se plient à cette logique. Parce que nous ne pourrons pas nous regarder dans un miroir si nous avons contribué même indirectement à l'élection de Jordan.
Vous dites la non mélenchoniste. Hier soir, le même Jean-Luc Mélenchon, qui effectivement y va de son côté, a quand même proposé, je cite, une campagne unitaire, notamment pour les sénatoriales.
Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours la même histoire. Il est capable de prêcher le vrai et le faux. Non, toujours le faux, mais en tout cas, surtout la capacité à chercher à embrouiller et chercher à organiser le chaos.
À organiser le chaos.
Oui. Et ce n'est pas, en fait, la réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'a aucune intention de faire quoi que ce soit avec qui que ce soit.
Il n'a pas vraiment envie d'une campagne unitaire, en fait, c'est ce que vous me dites.
Il n'a jamais cherché l'unité où que ce soit. Il a cherché à plier ceux qui avaient été ses partenaires dans le cadre de la NUPES ou du NFP. Il n'a jamais cherché à faire vivre ensemble des formations politiques différentes pour lesquelles il avait une légitimité à diriger. Mais cette légitimité, il l'a perdue parce qu'il n'a jamais fait autre chose que de chercher à imposer un point de vue à tous les autres.
On l'a appris ce matin, un bateau affrété par la compagnie française CMA-CGM, qui par ailleurs est propriétaire d'ailleurs de BFM TV et d'RMC, a été touché dans le détroit d'Ormuz. Est-ce que la France, à un moment ou à un autre, doit participer, s'engager d'une manière ou d'une autre dans le conflit? On a deux soldats qui ont été tués sous casque de la finule. Est-ce que la France doit continuer à rester spectatrice en quelque sorte?
Mais nous ne pouvons pas nous engager derrière Donald Trump et Benjamin Netanyahu. C'est inimaginable. Ce que nous devons au contraire poser, c'est une solution diplomatique, c'est faire en sorte que la paix revienne. Enfin, vous vous rendez compte que ce problème que l'on évoque ce matin, c'est six Philippins dans un bateau, donc c'est de CMA CGM qui ont été touchés, le sont
blessés,
pour quelle raison,
semble-t-il?
Pour quelle raison? Ils le sont parce qu'il y a eu une guerre totalement illégale, sans mandat, qui a été enclenchée par deux gouvernants d'extrême droite, que sont Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Et donc, nous devrions, nous, maintenant, les suivre parce qu'ils nous ont entraînés dans une guerre illégale.
Et est-ce qu'on peut ne rien faire?
Mais on peut, le moment venu, sécuriser le détroit d'Ormuz, mais il n'est pas question de mettre un doigt dans l'engrenage, de devenir des co-belligérants et d'être de ceux qui participeront à un conflit que nous n'avons pas voulu, que nous n'avons pas souhaité et qui ne permet rien. Enfin, c'est quand même incroyable de voir à quel point ces gens improvisent des guerres et le font au détriment du monde entier. La crise que nous allons connaître, une crise qui va être une crise mondiale, une crise sociale, une crise économique, elle est liée à l'inconséquence de deux dirigeants qui n'en font qu'à leur tête et qui considèrent que désormais, c'est la loi du plus fort qui doit s'imposer face au droit international. Eh bien moi, ce que je défends, ça n'est pas la loi du plus fort, mais c'est la loi du plus juste. Et c'est très différent. Et ce que je crois, c'est que notre pays, qui est un grand pays, qui est un pays qui exprime aux yeux du monde entier une façon de procéder, qui exprime des valeurs particulières, etc., doit se comporter comme ce qu'il a toujours été et faire entendre la voix qui a toujours été la sienne, celle du droit.
Merci Olivier Faure d'avoir répondu à mes questions ce matin. Premier secrétaire du Parti Socialiste et vous-même député socialiste de Seine-et-Marne. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les matins, Nicolas Canteloup avec son info revisitée. Ce matin, Olivier Faure était mon invité. Il est toujours avec nous. Rebonjour Olivier Faure.
Rebonjour.
Figurez-vous que François Hollande voulait réagir. Bonjour, monsieur l'ancien président.
Oui, bonjour. Pardon de vous reprendre ma l'herbe, mais je pense que j'ai fait une petite erreur dans votre lancement. Vous m'avez présenté en disant François Hollande. Il faut bien préciser, il fallait dire le président Hollande.
Ah, le président Hollande. Oui, bonjour président.
C'est quand même pas compliqué, il faut être carré.
Ah oui.
En plus, j'ai la chance qu'il y a encore un peu rond, donc faites rentrer le rond dans le carré.
C'est ça.
Voilà. Bref, il faut dire président Hollande. Oui, j'aime rappeler que j'ai occupé les plus hautes fonctions, contrairement à d'autres autour de cette table.
Oui, oui, monsieur le président.
Ben oui, président, il n'y en a pas beaucoup des présidents, ça se compte sur les doigts d'un pouce. Hein, voilà. Pour donner une image, en cette journée de football, il y a la Ligue des Champions avec Luis Enrique, et puis il y a le tout venant, la Ligue Amateur avec Habib Bey en Ligue Amateur. Chacun se reconnaîtra. Et j'ai écouté attentivement Olivier Faure, pour qui j'ai beaucoup de compassion.
De compassion.
Oui. Se faire enfariner, c'est toujours une épreuve. Et on se doute qui est derrière cet attentat pâtissier, puisque d'après les premiers éléments de l'enquête, on a retrouvé sur le corps de la victime de la farine francine insoumise.
Attention, monsieur Hollande, vous avez aussi reçu de la farine, justement. D'ailleurs, vous en avez encore un peu sur votre veste, là.
Où ça?
Non, c'est pas
de la farine, c'est du sucre glace.
Ah oui.
Oui, c'est à cause de la gaufre à l'heure. Oui. Oui.
Ou c'est venu avec des chouquettes.
Non, ou des chouquettes. Ah oui. C'était des chouquettes. Voilà. À moins que ce soit le pain au lait aussi.
Ah oui.
Quand même. Ce serait quand même pas le Quidaman. Ah non, je sais, c'est le beignet. C'est le beignet. Oui, bon, mais bref, c'est pas le sujet. Non. Je voulais répondre à Olivier Faure concernant la primaire à laquelle il ne tient pas. Il y a un argument qui est imparable contre la primaire.
Justement, monsieur Hollande, on n'a plus le temps là, ça suffit. Olivier Faure est toujours avec nous. Rebonjour Olivier Faure. Le gaz, le pétrole, est-ce qu'on va au devant d'une grosse crise énergétique?
Vous avez raison, Pénomère. Le gaz, le pétrole, mais aussi l'électricité, sont les jersey, sont les français. C'est pourquoi, avec toutes les forces gauches républicaines, je vais mettre toute mon énergie à sauver l'énergie.
Ah oui.
Autant sur l'énergie, nous sommes en pénurie. Autant candidats de gauche, on en a trop.
Oui.
Luc Mélenchon, Hollande, Bernard Cazeneuve, Guzman, Risvalo, Romgège, Soir Ruffin, Tinotin. Et encore, je ne cite pas les remplaçants, même si je sais que nous sommes sur une chaîne de sport. Bref, il y a une surproduction de candidats. À gauche, on ne sait plus où les stocker.
Oui, c'est un problème.
Je crains une chute des cours de la gauche et que les Français se dirigent vers une autre énergie beaucoup plus droitière, beaucoup plus polluante.
Bien sûr.
C'est la raison pour laquelle je propose de taxer les candidats de gauche.
Ah oui, c'est bien ça l'idée.
Comme pour Total.
Hein,
Très bien. Pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué, je confonds un peu ce sujet.
Oui, c'est ça, là, vous m'avez mis des ronds dans des carrés. Merci, monsieur Faure. Tout de suite, on retrouve Thibaut Texer pour les titres de l'actualité.
Et oui, ici Thibaut Texer, le journaliste qui a une voix tellement profonde qu'elle est plus navigable que le détroit d'Ormuz. C'est parti pour les titres. Rêve parti. Débuté le premier rêve. La rêve parti près de Bourges s'est enfin terminée hier. Prochain gros événement à l'agenda des dealers. Festival de Cannes et le Tour de France. Procès libyen au dernier jour des débats de son procès, Nicolas Sarkozy a déclaré « Je veux retrouver mon honneur ». Ceci est une alerte enlèvement. L'honneur de Nicolas Sarkozy a disparu. La dernière fois qu'il a été aperçu, c'était le 6 mai 2007, place de la Concorde, au soir de la victoire de l'ancien président. Il était accompagné du chanteur Faudel qui s'est lui aussi volatilisé. Depuis, plus aucune nouvelle. Si vous disposez d'informations permettant de retrouver l'honneur de Nicolas Sarkozy, composez le numéro du tribunal le plus proche. Pour ce qui est de Faudel, ça ira. Merci.
Allez, merci Thibault. Les chiffres de Médiamétrie sont tombés. CNews a dégringolé à la troisième place des chaînes info en avril. Et pourtant, Christine Kelly est tout ce qu'il faut pour retenir les derniers téléspectateurs.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur CNews dans mon havre de paix, le spa Christine Kelly. La concurrence vous inonde d'informations anxiogènes sur le Moyen-Orient. Alors, pour lutter contre tous ces antioxydants qui vous agressent, essayez notre formule zen. Un bain de boue vivifiant dans lequel on traîne quotidiennement Bali Bagayoko. Bien sûr, avec respect, calme et volupté.
Bien sûr.
Découvrez également notre gamme de soins adaptés pour toutes les peaux à problème. Vous ne supportez plus le teint mat de Kabylie ou l'épiderme noir comme du charbon végétal? Laissez-vous séduire par les traitements que nous proposons à base de vitamines OQTF à l'extrait de remigration active. Alors je vous dis à bientôt. Je vous attends dans mon spa, Christine Kelly.
Merci beaucoup, Christine Kelly. Et nous sommes à présent avec. Ah, tiens, oui, vous êtes de retour, monsieur Hollande.
Ça m'est revenu.
Ah bon? Alors, l'argument imparable contre la primaire?
Non, le sucre glace sur la glace. En fait, c'était pas le beignet, c'était les choux roses.
Ah, c'est les choux roses. Merci, monsieur Hollande. Allez, pour finir, Alain Marchal nous a rejoint pour nous présenter le sommaire des grandes gueules. Qu'est-ce qu'il y a au menu, Alain?
Eh oui, bonjour, Apolline. Eh bien, menu, c'est exactement le mot adéquat, puisque vous avez vu le buzz que nous avons fait l'autre jour en piégeant le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, pour lui faire manger du master poulet, qu'il a d'ailleurs refusé de manger. Donc, on va surfer sur cette vague.
Ah oui, hein.
Aujourd'hui, dans les GG, nous recevrons Sandrine Rousseau, à qui nous allons offrir une belle assiette de foie gras. Bruno Retailleau, à qui nous avons préparé tagine, couscous et pâtisserie orientale. Nous proposerons également à l'imam Chalgoumi du rôti de porc et du saucisson de Lyon. Et enfin, nous terminerons avec Gérard Larcher, à qui nous proposerons une grande assiette de salsifis vapeur.
Oh non,
vous l'aurez compris. Aujourd'hui, dans les GG, ça ne sera pas les grandes gueules, mais le grand gueuleton.
Merci beaucoup, Nicolas, et merci à Olivier Faure d'être resté avec nous. Le vrai Alain Marchal est là. Quel est le programme, Alain?
Eh bien, c'est Bruno Retailleau, candidat à l'élection présidentielle, qui sera dans les GG tout à l'heure. On parlera du petit chantage de Patrick Pouyanné. Si on me taxe, j'arrête le plafonnement. Sophie la girafe, qui est fabriquée en Chine. Et puis, on regardera aussi ce qui se passe du côté des enseignes fast-food. McDo, qui baisse les prix de certains de ses menus. Le carton aussi de Master Poulet. Finalement, est-ce que c'est vraiment bon pour le pouvoir d'achat? Est-ce que c'est bon pour l'assiette? C'est autre chose. Mais le pouvoir d'achat. Vous venez en discuter avec les GG, avec les grandes gueules, d'autant plus que nous avons notre agriculteur Didier Giraud qui sera avec nous, ainsi que l'avocate Sandrine Pégan, tout comme la cadre de la fonction publique Zora Bitton. Le 32-16 est à votre disposition. Les grandes gueules, ça démarre dans 3 minutes en direct sur RMC, la radio, et RMC Story, la TN, le calme 23 de la TNT.